comment devenir le chouchou du Parc des Princes. C'est le sujet du jour. On est avec Basto, on est avec Zedrias. On va aborder aussi ce qui se passe au PSG par rapport à Anne Hidalgo et ma sœur Khalifi. On va aborder aussi Sarabia, les transferts au PSG de manière générale, pourquoi on est aussi nul en vente. On va d'abord laisser la parole à Basto pour qu'il s'exprime sur le premier sujet du jour parce que ça lui tenait à cœur. Comment pour toi on devient le chouchou du Parc des Princes, sachant que des joueurs comme Pastore et Cavani ont réussi à le devenir, et des joueurs normalement footballistiquement parlant au-dessus comme Neymar et Messi, etc., peut-être même Mbappé, n'arrive pas à l'être au jour d'aujourd'hui?
C'est un sujet complexe. Je pense qu'il y a plusieurs points pour devenir chouchou du Parc. C'est plusieurs éléments. Une partie, forcément, le niveau de jeu. Je pense qu'il ne faut pas être une chèvre. Quoi qu'il y a eu les chouchous pas bons, hein. Les Francis Liasser et compagnie, mais c'est plus rare. Deuxième point, une large partie du public s'identifie certainement à un joueur. Alors, ça peut être de manière différente. Mathieu dit que certains se sont identifiés à lui parce que c'est un Parisien qui vient de la banlieue et parce qu'il donnait tout sur le terrain, etc., etc. Pastore, ceux qui sont identifiés à lui, c'est ceux qui aiment ce côté foot romantique qui aussi fait partie du PSG historiquement, le PSG de Borelli, le PSG du Beau. Cavani, c'est la Grinta. On a eu Enzo qui a été chouchou du Parc avant sa trahison, qui était un peu dans le même cas. Donc voilà, il faut le comportement sur le terrain, le comportement en dehors du terrain aussi, très important. Pastore disait jamais un mot de travers, peut-être qu'il parlait même pas assez, hein, il est peut-être aussi un point faible pour lui. Mathieu dit c'était monsieur propre, alors on aime ou on n'aime pas, mais rien qui dépassait. Neymar Messi, c'est différent. Neymar avait tout pour le devenir au début quand il arrive de Barcelone. Ça se passe très bien la première année, il va voir le public, il y a une alchimie qui se passe entre Neymar et le cup. Puis il y a eu cette histoire du vrai faux départ et une cassure. Et Messi, c'est encore différent, c'est que le joueur a déjà tout gagné, a déjà été star ailleurs, superstar. Et Paris aime bien aussi avoir des chouchous avec des joueurs qui s'affirment au PSG. Donc voilà, je pense que c'est un ensemble de choses, de points footballistiques, comportement sur le terrain et comportement en dehors du terrain. Neymar, toutes ces phrases qu'on dort ont peut-être aussi fini par faire fatiguer certains.
Je rajouterais en adéquation avec les attentes. Par exemple, si on regarde un Ibra, Ibra était le mec qui portait l'équipe de A à Z, mais en Ligue des Champions, bah, il n'était pas là, le Ibra. Et il décevait, au moins dans l'inconscient collectif, et c'est Cavani qui a récupéré ça. Alors si on compare avec un Javier Pastore, lui, dans les grands matchs, c'était toujours là. Alors après, Blaise Matuidi était égal dans les grands matchs, idéal dans les trucs. Mais voilà, c'est être en adéquation avec les attentes des supporters, ne pas être une déception. Si on prend Neymar, c'est l'exemple même de la déception. C'est le joueur qu'on attendait tous, qui était là pour faire franchir un palier. Limite, ça aurait été normal s'il le faisait. Et on n'est pas loin d'avoir régressé, quoi. Merci pour le gros plan sur ma tronche. Et etc. Donc c'est être en adéquation avec les attentes.
Pour revenir, d'ailleurs Ibra, très très bon exemple, il y a aussi ces déclarations, alors qui font partie du personnage, mais qu'on finit par lasser certains quand ils disent avant moi le PSG n'était rien, ou avant moi le PSG il n'y avait rien, forcément ça va couper des supporters. Alors qu'un Cavani, qui n'a pas toujours été irréprochable, le fait que ce soit qu'il arrive en retard à la reprise ou certaines déclarations dans la presse, lui s'était excusé par rapport à tout ce qu'il apportait au reste, effectivement le fait d'aller tout de suite vers le cup, les célébrations, d'être tout de suite en adéquation, le premier à venir saluer, c'est aussi important pour le public.
Il était cohérent, Cavani aussi.
Oui, c'était pas fin, c'était pas fait exprès pour se faire aimer, c'est sa nature.
Et c'est pas genre, il y a des matchs où il se donnait à 100% et d'autres à 0%, non, c'était tout le temps la même attitude, avec les mêmes ratés, les mêmes réussites, mais c'est tu savais à quoi t'en tenir.
Mais c'est justement un sujet que je voudrais aborder juste après celui-là, en fait, toujours dans le même gros sujet. Est-ce que vous n'avez pas la sensation des fois que certains joueurs trompent le Parc des Princes? Est-ce que certains joueurs ne sont pas plus, entre guillemets, dans essayer d'attraper l'affection de ce public, notamment avec plein de posts Instagram, plein de « Je t'aime Paris », ceci, cela, mais qu'au final... c'est juste pour camoufler ce qui se passe sur le terrain. On a vu l'exemple notamment avec, Ander Herrera, qui avait une communication exceptionnelle sur les réseaux concernant le Paris Saint-Germain. C'était toujours des photos dans Paris, j'aime Paris, Paris c'est magnifique, blablabla. Mais au final, sur le terrain, c'était pas ouf. Et ça me fait penser à un mec du côté de Marseille qui fait la même chose. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était peut-être il y a 2-3 ans, de Alvaro, et qui est toujours sur le port à Marseille, tout ça, toujours en train de faire des grandes déclarations à Marseille. Mais au final, c'était juste pour masquer son niveau nul, complètement nul avec Marseille. Mais tout le monde le kiffait parce que, tu vois, il se bagarrait avec Neymar, et il n'arrêtait pas de dire Marseille ceci, Marseille cela. Mais au final, il était nul. Est-ce que pour vous, il y a des joueurs qui ont réussi à faire ça au Parc des Princes?
Non, mais ça peut marcher un temps. Ça peut marcher un temps, mais au bout d'un moment, la façade s'écroule, quoi. Si c'est une façade, il y a un moment, t'es confronté à la réalité avec les matchs qui s'enchaînent les uns après les autres, les journées les unes après les autres, les déclarations les unes après les autres, et les petites démonstrations, blabla, j'en fais un petit peu trop, etc., etc. Ça va marcher 6 mois, 7 mois, 8 mois, mais au bout d'un moment, ça s'écroule.
Alors, Herrera, ça n'a jamais marché. Bon, il n'y a pas eu d'identification parce que c'est un joueur qui est neutre, on va dire, sur le terrain, même s'il a parfois été intéressant, mais qui est aussi neutre d'un point de vue personnalité, donc c'est difficile d'avoir quelque chose qui se dégage. Mais pour reprendre ce que dit Dreyas, un joueur qui n'a pas devenu chouchou du parc, mais qui au début, la première, la deuxième année, le public avait une affection pour lui, c'était Kurzawa qui était là-dessus aussi, qui faisait « on est au boulot, allez Paris », beaucoup, beaucoup de tweets. Et au bout d'un moment, c'est l'effet inverse, ça se retourne contre toi, parce que quand tu as beaucoup de phrases, beaucoup d'absences, des performances qui sont pas là, et que tu continues à faire ce genre de tweets, à l'arrivée, c'est oh, il en fait beaucoup trop. Et ça se retourne contre lui.
Mais en fait c'est, on en revient à ce que je disais au départ, c'est-à-dire que l'affection entre le lien entre les supporters et les joueurs se jouera sur la cohérence, sur l'honnêteté dans le rap. Enfin, honnêteté, le mot, il peut être galvaudé, donc faut s'en méfier. Donc, juste sur la cohérence entre j'annonce ce que je fais et je fais. Et etc, etc, etc. Et après, si le mec, effectivement, il en joue un petit peu, il fait un petit peu trop de aller à Paris, machin, bidou chouette, mais qu'il est cohérent sur le terrain, ça passera et ça lui sera pardonné, je pense, sans aucun souci.
Oui, mais encore aujourd'hui, j'ai vu sur Twitter un mec, un journaliste, qui disait qu'il aimerait bien retour de Cavani pour les 6 derniers mois qui restent. Je suis pas totalement d'accord avec ce que vous avez dit, dans le sens où, par exemple, Cavani, moi, j'ai l'impression que c'est un mec, oui, dans l'intensité, comme tu as dit, Dreyas, il était tout le temps là, et c'était toujours le même joueur, mais je trouve qu'il surjouait beaucoup avec le public. Et en fait, il y a un problème avec... c'est pas vraiment un problème, il y a un problème au niveau du COP, ou entre guillemets, dès que les mecs ils viennent et ils te font des bamos et ils viennent te voir à la fin du match, j'ai l'impression que ces mecs-là, ils sont plus mis en avant que d'autres. Et souvent, on met l'accent sur un tel n'est pas venu saluer, un tel n'est pas venu saluer. Mais est-ce que vraiment venir saluer le public, ça veut dire vraiment que t'aimes le Paris Saint-Germain plus qu'un autre joueur?
Ouais, saluer le public, c'est demandé par le club déjà. Donc, mais là, en fait, depuis tout à l'heure, je me demandais pourquoi est-ce qu'on parlait des chouchous et tout, là, etc. En fait, c'est juste Nyx qui voulait faire sa diatribe contre Cavani, quoi, en fait.
Mais n'importe
quoi. J'ai grillé le truc.
Non, le sujet de base, c'est un sujet que j'avais créé il y a peut-être 2-3 mois. Et Barry, il m'a dit qu'il allait le faire. Et il a jamais fait. Du coup, je l'ai remixé. Le sujet de base, c'était pourquoi Mbappé n'est pas le chouchou du parc. Et là, maintenant,
en fait, c'est une histoire compliquée, Mbappé, parce que tu y avais son départ, son machin, son faux départ, et à l'arrivée, il est en train de le devenir. C'est juste, il y a eu des complications, quoi.
Et d'ailleurs, on l'a très intéressant, Mbappé contre Strasbourg, on le voit dans la manière dont il va haranguer la foule à 10 minutes de la fin, à lui seul aller chercher le pénalty de la victoire, et ensuite, il a eu son champ pendant le match, mais donc, oui, il le devient par une manière de le démontrer aussi sur le terrain, un côté leader qu'il n'avait pas forcément avant. Donc, ça va dans le sens de ce qu'on dit. Pour rebondir juste à Cavani, je pense pas que c'était surjoué, c'est son côté un côté très uruguayen, d'être comme ça, d'haranguer, etc. C'était déjà une idole à Naples. Je pense pas que c'était un rôle qu'il jouait. Alors après, que le cup soit majoritaire sur les réseaux sociaux pour dire « ils nous ont salués », etc., etc. Oui, on voit beaucoup de points là-dessus. Neymar et Messi viennent pas saluer le parc, c'est honteux, etc., etc. Ça, c'est un autre débat, je pense qu'être chouchou chez les gens, c'est pas une question d'aller saluer le public à la fin du match. C'est un peu anecdotique pour moi.
Et pour revenir sur Cavani, le faire revenir, non, ce serait pas forcément une idée, quoi. Il y a un moment où te remettre avec tes ex, c'est bien, mais ça touche.
Et puis je pense que les gens ne regardent pas Valence pour vouloir Cavani, parce qu'il est un peu fini. Hein.
Ouais. Ouais, on a des points de vue un peu différents là-dessus. Mais tout à l'heure, Dreyes, il a dit, par exemple, qu'ils sont payés pour aller saluer le public. Mais justement, est-ce que vous ne sentez pas que des fois, certains joueurs sont plus professionnels qu'autre chose ? C'est pas pour, comme il a dit, Dreyes, me focaliser sur Cavani. Mais est-ce que Cavani, par exemple, il a fait au Paris Saint-Germain ? Tu vois, il a fait derrière à Manchester United. Il a fait avoir Naples. C'est pas, entre guillemets, quelque chose, une relation unique qu'il a avec un club. C'est par exemple, moi ce qui me marque et qui me fait voir comment les joueurs ils ont un attachement au Paris Saint-Germain, c'est quand 3, 4, 5 ans après leur départ, ils sont tout le temps au parc. Et ça, tu le vois tout le temps avec Pastore, il est tout le temps là. Il vient tout le temps. Même je crois, je sais pas si c'est Pocho l'avait dit aussi, qui revient souvent. Les mecs que tu vois souvent, Cavani, il est parti, on l'a plus jamais revu. Ça fait 2 ans, 3 ans.
Puis même son départ n'était pas propre. Hein.
C'est ça aussi. Donc... Est-ce que en fait on voit pas l'amour en fait sur le long terme et les mecs qui reviennent régulièrement au parc et tu les vois quoi.
C'est pour flatter la nostalgie cet argument en vrai. Oui, en soi oui, si tu veux, si la définition c'est de se dire ah bah tiens avec le temps on voit si l'amour est partagé etc etc. Oui t'as raison. Mais après quand on regarde les matchs sur le moment dans une période et mais c'est marrant parce que quand tu parlais de ça tu disais et c'est un truc qui est assez notable que tu parlais de Cavani qui était bon en fait dans chaque club dans lequel il passait sauf quand l'âge a commencé à rattraper et à Paris les joueurs qui baissent de niveau mais bon ça c'est un tout autre débat.
Oui, je pense okay. Que Cavani est une de la Naples, on ne voit pas dans le stade de Naples, il le reste c'est pas être avoir être un chouchou du parc, c'est dans un moment donné une identification qu'on a avec un tel joueur dans une période donnée où il a joué. Moi, je n'ai pas besoin de savoir que derrière, il va revenir au parc ou quoi que ce soit pour qu'un joueur m'ait marqué. Petit troll sur la Vezzi, il revient au parc, mais il revient surtout pour les soirées avec les joueurs pour l'after-match.
Bah, tu vois, c'est ce qu'il nous dit, Eliju, il dit les célébrations de but, le bisou à l'écusson, la visite au cup en fin de match et le tour est joué. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui ne jouent pas là-dessus ?
Alors ça, c'est pour être chouchou du cup. C'est différent d'être chouchou du cup et d'être chouchou de l'ensemble des supporters. Parce que dans le cup, c'est qu'une minorité des supporters. Ouais, Pastore, un Matuidi, globalement, c'est pas que le cup, ce sera tout le monde.
Mais tu as le truc, en fait, ça va marcher, mais un temps. Il y a un moment où il va falloir faire autre chose. Tu peux faire ça, tu peux faire le faux cul et ça peut fonctionner, mais il va falloir que tu sois bon sur le terrain. Parce que si tu n'es pas bon sur le terrain et que tu fais le faux cul, là, tu vas passer pour un fromblard fini. Quoi.
Ok, bah, vous avez fait le tour un peu du sujet. Vous avez d'autres choses à dire sur comment devenir le chouchou du Parc des Princes ou pas? Ok,
bon, on va passer. Je dis juste que, par exemple, un joueur actuel qui a tout pour devenir, ce sera Nuno Mendes, qui correspond à peu près aux critères qu'on a dit.
Ah oui, c'est une bonne passerelle, ça. Par exemple, pour tous les joueurs que vous voyez actuellement au Paris Saint-Germain, hormis Nuno Mendes, parce que tu viens de le dire, est-ce que tu vois des joueurs qui peuvent le devenir ? Moi, je vois personnellement un potentiel pour Mukiele. Je pense qu'il y a moyen parce que il mouille le maillot et il donne tout ce qu'il a et ça se voit que dans ses déclarations, il est propre. Donc, est-ce que vous voyez d'autres joueurs comme ça qui peuvent le devenir ?
Kylian est en train de le devenir. Mais après, ça va dépendre de son départ. Ou pas.
Ouais, je pense que Mbappé est en train de devenir, Nuno a tout pour le devenir, et Mukiele, effectivement, avec plusieurs critères, il vient de Montreuil, de la région parisienne, il ne fait pas une vague, il est performant par rapport au salaire et au prix qu'il a coûté, et il devient un peu actuellement le meilleur joueur en 2023 limite du PSG, donc oui, il a tout pour le devenir, aussi.
Il y a Laurent qui nous dit il faut être un guerrier pour devenir un chouchou, mais on a parlé de Pastore tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même quelques exceptions. Côté magicien, technique, tu peux vite le devenir aussi. D'ailleurs, comme Marco Verratti, dont on n'a pas parlé.
Il est fatigant, Marco Verratti. Il a été de toutes les défaites. Il est fatigant. Tu peux pas être le chouchou en étant comme ça, à ce point de toutes les défaites, au point où tu... Alors, il est personnalisé un petit peu moins que Marquinhos, mais il est personnalisé. Désolé, Nix, hein, ça te fait du mal de l'entendre. Mais il est personnalisé malgré tout un tout petit peu. Par contre, pour Zaïre Emery, il va falloir attendre quand même.
Non, oui. Alors, il faut être un guerrier pour être le chouchou. C'est toute la dualité de ce club, hein, côté... guerrier sans sueur et le côté beau, ça on a déjà fait le débat, mais effectivement les chouchous du parc, tu regardes, tu auras les Léacer, les Matuidi qui vont être du côté guerrier, mais tu as aussi les Rai, Pastore, Paoletta, etc. Donc s'il faut, c'est un mélange, c'est une partie du parc qui est sensiblement différente. Après, ouais, c'est la dualité de ce club.
Mais je pense que dans tous les clubs, tu vas avoir les grands artistes et tu vas avoir ceux qui mouillent le maillot comme personne qui vont être aimés. C'est, on en revient à ce que je disais, c'est être en adéquation avec ses attentes, quoi. Ou de les dépasser.
Il y a un joueur dont on n'a pas parlé, mais peut-être parce qu'il est portugais, ça risque pas d'arriver. Mais moi, je trouve que la cote, par exemple, de Danilo, elle est en train de changer. Parce que dès qu'il est arrivé, il a été beaucoup critiqué. Et là, je vois beaucoup de gens sur les réseaux, notamment, qui défendent Danilo. Et que malgré des performances pas terribles ces derniers temps, bah souvent on le défend, on dit genre ouais mais maintenant c'est devenu un défenseur, ça sert à rien de mal le placer. Quand il a fait un mauvais match de retour de Coupe du Monde et que entre guillemets il n'a pas été bon, j'ai vu tout le monde tomber sur Galtier et pas sur lui. Ils ont dit ouais il n'était pas prêt et tout ça, alors que d'habitude ça tape facilement sur les joueurs. Est-ce que vous pensez que Danilo il peut le devenir également?
Oui non, Danilo en fait là il bénéficie du fait qu'on était beaucoup trop dur avec lui avant. Et en réaction, bah, y a des gens qui sont beaucoup trop gentils avec lui aujourd'hui. C'est l'histoire du miroir qui répond à l'autre. Danilo était considéré comme une chèvre, qui faisait que des passes en touche, qui était que lent. Alors oui, il avait le placement, mais il n'avait que ça, blablabla. En fait, il s'avère que Danilo, il y a des matchs à côté desquels il passe, mais sinon il est très cohérent en passe. Il a effectivement ce problème de lenteur, mais il a une vraie intelligence de placement. Et il a sa place sur le banc. Et il a une vraie place sur le banc. Il faut lui garder une vraie place sur le banc. C'est un joueur cohérent. En plus, c'est un joueur où on a une pelletée de joueurs qui déçoivent les uns après les autres, qui lui ne déçoit pas, qui lui garde un niveau constant. Et voilà, faut juste sortir du regard passionnel autour de Danilo pour comprendre le truc, rentrer dans un regard qui se veut en tout cas objectif sur ce qu'est le joueur et ce qu'il peut apporter, et tu sors de ce délire là, parce que à la fois avant c'était juste Danilo c'est qu'une chèvre, etc. Aujourd'hui c'est limite, t'as l'impression que c'est le nouveau Beckenbauer. Faut pas déconner, quoi.
En fait Danilo il me fait penser à l'époque pour pouvoir s'en garder, parce que lui c'était vraiment un joueur mauvais, mais à Sami Traoré qui au début était le mec hué, détesté, qui était devenu un peu le chouchou sur la fin d'une partie du parc, d'une partie du public, parce qu'il avait la bonne attitude et que des joueurs meilleurs faisaient pas le taf. Donc ça me fait un peu penser à Traoré à l'époque.
Ok, question qui va diviser. Pour moi, c'est cuit, mais est-ce que vous pensez que, parce qu'il n'a encore que 30 ans, est-ce que Neymar pourrait réussir à renverser la tendance et réussir à redevenir, puisqu'il n'a jamais vraiment été, mais devenir vraiment un chouchou du parc? Parce que si on retrace l'histoire, depuis le début que Neymar il est arrivé, il y a toujours eu des problèmes. Parce que là, on dit que c'est parce que les supporters l'ont insulté. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il est arrivé, direct que les supporters l'ont pris en grippe pour l'histoire à Cavani. Du coup, depuis ses débuts jusqu'à maintenant, ça se passe mal. Ça n'a jamais été une grande relation d'amour. Est-ce que vous pensez que la tendance elle peut être changée ou c'est définitif et ça restera comme ça?
Tu veux aller, Bastos, je commence.
Oui, non, c'est, je pense que c'est trop tard. Il y a trop d'attitudes, trop d'éléments en dehors, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Ses cartons rouges, ses absences, ses blessures, ses réseaux sociaux, son entourage, ses potes, ses parties de Counter-Strike, ses machins. C'est un ensemble, tu vois. Si tu prends juste un élément, ça va, c'est pas grave. Si tu prends l'ensemble des éléments, je pense que certains sont fatigués, dont moi je me cache pas. Et je pense que c'est trop tard.
Le truc, c'est en plus, c'est que si cette année on fait une bonne campagne de Ligue des Champions, on a le droit de rêver, la lumière, elle sera sur Messi et sur Mbappé, elle sera aussi sur Neymar, mais il aura plus l'opportunité d'être celui qui nous permet d'avoir quelque chose qui pourrait lui donner un élément pour se racheter de blablabla. Donc c'est d'autant plus d'aide en fait. Il ne sera jamais le chouchou du parc. C'est comme ça.
Et du coup, même question pour Messi, si on gagne la Ligue des Champions, pour rebondir à ce que tu as dit, Dreyas, et que Messi est l'acteur principal de la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, parce que ça peut jouer. Parce que j'ai encore revu le match PSG-Angers à froid, pour répondre à une question qu'on s'est posée avant. Je pense pas qu'on va avoir Messi retraité après j'ai gagné ma Coupe du Monde et c'est fini. Parce que moi, de ce que j'ai vu, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné sur ce match-là. Et est-ce que s'il nous ramène la Ligue des Champions, vous pensez que ça peut vraiment devenir un chouchou du parc?
Le truc, c'est que la Ligue des Champions, il en a déjà gagné plusieurs et pas avec ce club-là. Ça sera toujours le club du, ça sera toujours le joueur du Barcelone. C'est juste qu'il fait sa fin de carrière. Alors après, on a de la chance, on se retrouve avec un Messi qui d'ailleurs était moins bon sur ses deux dernières saisons à Barcelone à mes yeux. Il a transformé ce qui était devenu son défaut, son manque de vitesse relatif, en une qualité avec l'intelligence de jeu. Il dénote une intelligence de placement, de choix. Etc. Enfin, c'est un délice le Messi actuel. C'est un délice. Il est aussi bon qu'à ses débuts avec d'autres qualités, quoi. Il est juste magique. Mais s'il nous fait gagner avec les champions, lui, on sera toujours reconnaissant. Il sera toujours celui qui aura permis d'eux avec Mbappé, sans doute aussi. Mais c'est lui qui est arrivé. C'est lui qui fait sa deuxième année maintenant. Mais ça sera jamais le chouchou, pas tout simplement parce que ça restera le chouchou du Barcelone, quoi. De Barcelone. Un joueur qui est tellement payé depuis qu'il a 17 ans, quoi.
Au-delà, ce qui reste le chouchou de Barcelone, mais il a aussi quelque chose, Messi, c'est que autant sur le terrain, il dégage quelque chose de fou, mais en dehors, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'attache émotionnelle. Il y a un truc qui lui manque là-dessus. C'est vrai que tu n'as pas une émotion qui se dégage humainement, ou même voilà, au-delà des waouh, quand tu le vois jouer, derrière, c'est un peu une. C'est un peu sévère ce que je vais dire, parce que j'adore Messi. Hein. Moi, au PSG, je ne fais que le défendre, mais c'est un peu une coquille vide en dehors. Hein.
Ok, et dans le chemin inverse, est-ce que vous pensez qu'il y a des joueurs qui peuvent gâcher leur histoire avec le Paris Saint-Germain? Et je vais notamment cibler M. Marquinhos, qui a été le chouchou du parc pendant très très longtemps, ça fait des années. Et que là, la tendance, elle commence peut-être un peu à s'inverser. Est-ce que, entre guillemets, vous pensez que Marquinhos, s'il continue à faire des saisons comme ça, ça peut mal finir pour lui avec le parc?
Alors, le truc, c'est quand tu as commencé ta question, avant de préciser à Marquinhos, j'étais en mode, mais putain, on va pas avoir assez de doigts et assez de doigts de pied entre moi et Basto pour pouvoir répondre à la question, tellement il y a de cas. Si on en revient à Marquinhos, Marquinhos, ouais, c'est déjà fini, en fait. C'est déjà fini, c'est-à-dire que Marquinhos, même quand il va faire trois bons matchs, ça lui arrive d'enchaîner trois bons matchs. Hein. Et il en a fait cette année des enchaînements de trois bons matchs. Et puis tout à coup, il va se rater, mais dans les grandes largeurs, en plus, en faisant des erreurs qu'il ne faisait jamais avant. Et c'est cette espèce de dichotomie, cette espèce de joker de Mr. Good et Mr. Bad, je sais plus quoi. Non, Mr. Hyde et Jekyll, enfin, j'ai plus l'exemple.
Jekyll, Mr.
Voilà, que peut être Marquinhos. Mais en fait, depuis le Real, il l'est. Et il était super fiable, il est plus fiable. De temps en temps, il a son jeu au pied. Il est un peu en train de retrouver son jeu au pied, mais quand il retrouve son jeu au pied, il offre deux buts à l'adversaire à peu de choses près. Enfin, c'est déjà trop tard, Marquinhos, en fait. C'est juste déjà.
Après, le côté Marquis, on parle de ses performances, etc. Mais je pense pas que pour la majorité des gens, ça enlève le capital sympathie que les gens ont avec lui. Ils se mettent pas à le détester, même s'il n'est pas performant. C'est juste qu'ils disent qu'il n'est pas performant. C'est peut-être plus le chouchou, mais le capital sympathie, il ne s'inverse pas non plus. Merci Ève.
Merci Ève pour ce merveilleux don. Désolé de ne pas être présente, je taffe trop. Ouais, on est tous dans ce cas, Ève.
Bon courage.
Bon courage à toi. Du coup, on parlait de Marquinhos.
On pourrait parler de Verratti aussi.
Ouais, parce que j'ai vu que tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, tu as dit que tu pensais à plusieurs autres joueurs. Dis-nous à qui tu penses.
Verratti, tu pensais à Vert, à et qui?
Verratti, c'est autre chose. Même si, en ce début d'année, depuis la Coupe du Monde à laquelle il n'a pas participé, il est fondamentalement décevant dans ses productions. Mais Verratti, la problématique de Verratti, c'est autre chose. C'est que Verratti, c'est en soi, il a tout pour être top 1, même défensif, et avec ballon et sans ballon à son poste, sauf que il est incapable de jouer 15 mètres devant la balle, donc du coup, en tant que milieu, tu es obligé de le mettre en 6, mais quand il est en 6, il est incapable de défendre en zone, parce que c'est un très bon défenseur sur l'homme, donc tu ne peux pas l'avoir tout seul en 6. Et du coup, il t'oblige à construire ton effectif, à chaque fois de créer des complications dans la construction de ton effectif, te fait des mal de crâne, et j'ai l'impression qu'à l'arrivée, c'est un joueur qui finit par coûter cher à l'effectif à cause de ça, juste parce que c'est compliqué de jouer avec lui. Par exemple, cette année, là, le moment où c'était cohérent, bah, tu avais Ruiz qui était 6-8, 6 sans ballon, 8 avec ballon, et Marco Verratti qui était 6-8, enfin côté droit, et Marco Verratti qui était 6-8 côté gauche, qui était 8 sans ballon et 6 avec ballon. Et c'est comme ça que tout à coup, on avait un milieu qui était fonctionnel. Mais tu es obligé de trouver comme ça des profils qui sont machin,
ouais, nuls. On va pas refaire le débat du jeu, c'est pas ça le chouchou. Là. Pour Verratti reste le chouchou, tu vois, malgré ça, parce qu'il a
Oui et non, il reste le chouchou. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, il y a des gens qui ont installé Marco Verratti en haut, tout là-haut, et la lumière, tout là-haut. Et
on a pu le voir dans notre dernière.
Et on parle d'une montagne qui ne bougera jamais jusqu'à la fin de leur vie. Donc ouais, cela, oui. Mais Verratti, il y a les critiques sur Marco Verratti, même si elles sont plus difficiles à exprimer, même si effectivement tu rencontres pas mal de vents contraires, qu'on entend tout de même de plus en plus.
Et merci Samir, ça fait plaisir de te revoir dans le chat. Yonatim, vous allez bien, meilleur jeu à vous à la porte de Sonix. Merci à toi Samir, ça fait ultra plaisir, merci beaucoup. On a parlé de Marco Verratti, qui est-ce que tu avais encore en tête, Dres, parce que tu as dit qu'il y en avait plein.
Des joueurs qui baissent, qui sont... est-ce que tu veux que je te prépare le sujet d'après? Parce qu'il y en a un qui est très notable, on peut parler de Sarabia, mais d'une manière générale, des joueurs qui...
Tu pourrais parler
d'Herrera, si on parle que de cette saison, ouais, bah Hakimi n'est pas à la hauteur. Le seul en fait qui les deux seuls qui où tu as l'impression qui régressent pas du tout, bah c'est Messi et Nuno Mendes. Kylian Mbappé c'est autre chose, mais Neymar voilà, après il y a qui d'autre dans l'effectif, mais ils déçoivent tous en fait d'une certaine manière à plusieurs hauteurs. Sergio Ramos, c'est pareil, c'est courant alternatif, etc. Kimpembe, est-ce qu'on peut encore en parler? Est-ce que c'est pas le nouveau Renato Sanchez de la charnière? Ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu Kimpembe? Ça fait combien de temps qu'on se dit qu'on va pouvoir le voir? Je sais pas, j'arrive même pas à en trouver qui ont vraiment progressé à part Kylian Mbappé sous Pochettino et Messi et Nuno Mendes parce que c'est des aliens. J'arrive pas à en trouver qui progressent et j'ai l'impression que tous les autres, d'une manière ou d'une autre, ont fini par régresser au Paris Saint-Germain en fait, tous.
Nathan Gaspard. Ok. T'avais quelque chose à dire là-dessus, Basto?
Non, c'est bon.
Ok, juste pour conclure sur Verratti, parce que peut-être que, vu comme vous le savez tous, j'ai un peu un affectif pour lui, ma vision, elle est peut-être un peu objective, mais j'ai vu quelque chose passer dans les commentaires comme quoi Marco Verratti, dans les grands matchs, il n'était pas là. Je vois ça revenir beaucoup. Et moi, souvent, ce que je me rappelle, ce que j'ai en tête, peut-être que ma mémoire elle me fait défaut. Moi, je me rappelle d'un Marco Verratti qui est toujours blessé et qui arrive dans le grand match sans avoir joué au préalable et qu'il te sort des perfs de fou. Alors que normalement, des joueurs, par exemple, tu vois Neymar quand il est blessé, genre il prend peut-être un mois et demi, deux mois à redevenir bon, tu vois. Et Verratti, moi, ce que j'ai en tête, c'est toujours avant les gros matchs, il était toujours blessé. Et après, le mec, il revient, il sort une masterclass sur son premier match.
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le final 8, Verratti n'est pas là, la seule finale de l'histoire du PSG. La double confrontation contre Munich, qui est peut-être la plus grande perte du PSG en Ligue des Champions successives, Verratti est absent aller comme retour. Donc, c'est vrai que déjà, il est absent des gros matchs du PSG récemment, mais absent par blessure, hein, pas absent sur terrain. Et après, oui, il a fait quelques retours comme ça, où il était très bon, mais c'était surtout il y a 5-6 ans, je me souviens d'un match contre Chelsea, etc., etc. Depuis, la tendance, dans les moments faibles du club, à couler comme les autres. Il n'est pas le leader qu'il doit être et il coule avec les autres. Alors, ce n'est pas le premier responsable, mais...
T'exagères un chouille quand même. Après, tu vois, le truc, en fait, si tu veux, c'est que pour moi, il ne coule pas individuellement, mais c'est... À partir du moment où tu crées un système complexe pour fonctionner avec Marco Verratti et que tu as les autres qui coulent, de facto, Marco Verratti ne peut pas aller tout seul compenser tout ça, en fait. C'est dès que tu perds la balle, on est tellement en PLS qu'on est du père. Pour moi, Marco Verratti, en fait, c'est du gâchis, c'est du pur gâchis, joueur. Il n'a pas les qualités et les défauts au bon endroit. Parce qu'en soi, il les aurait. Ce serait le même joueur avec qui sache défendre en zone. Ce serait le meilleur 6 du monde. Ce serait le même joueur qui sait jouer 15 mètres au-dessus du ballon. Ce serait le meilleur 8 du monde. Enfin, ou un D. Mais ce serait un très très bon 8. Oui, il frapperait pas assez, donc là-dessus, il serait un peu plus limité, par exemple. Mais il pourrait jouer 15 mètres au-dessus du ballon, il offrirait des solutions. Mais il a deux défauts qui font que c'est compliqué de jouer.
L'orientation du jeu, le fait de se retourner quand le jeu est à droite, d'aller à gauche.
Ce que je veux dire, c'est deux défauts. Il a un défaut rédhibitoire pour jouer 6, et 6 seul devant la défense, et il a un défaut rédhibitoire pour jouer 8, qui est devant le ballon. Et c'est-à-dire que tu veux jouer avec Marco Verratti, tu es obligé de te retourner le cerveau. Et si jamais, dans ton équilibre de te retournage de cerveau, là, par exemple, tu trouves qu'un truc qui tire à peu près la route avec Ruiz, Verratti, Vitinha, t'as Ruiz depuis le début de la saison, le mec, il est même plus capable d'aligner une passe, t'as l'impression. Tu comprends pas ce qui se passe. Et ça se passe en Ligue des Champions, bah Marco Verratti, il peut rien faire, quoi. Donc, il plonge en même temps que tout le monde, en fait.
Peut-être je vais compter sur Basto là-dessus, parce que Dreyas et moi, on a des mémoires de merde. Tu te rappelles du match retour contre Liverpool, d'une performance de Marco Verratti?
Oui, où il joue 6 et 8 à lui tout seul, effectivement, avec Draxler devant lui et Marquis qui est moitié DC, moitié 6, mais Verratti joue en pur registre à ce match. Il joue au milieu pour 2 ou 3, il fait une grosse perte ce soir. C'est peut-être son meilleur match au PSG pour moi.
Merci, c'était la mémoire du Paris Central, parce que si c'est Dreyas et moi, on a déjà oublié les compos de la semaine dernière. ok, on va aborder un autre sujet. F qui nous dit, est-ce qu'on fera un live spécial Mercato? Pas prévu, mais pour toi, on peut le faire. T'as posé une question tout à l'heure pour Verratti. Oui, il a prolongé jusqu'en 2026, il me semble. Désolé, bah, tu vas nous relancer sur Verratti, ça va durer 50 ans. Bah, vas-y, réponds rapidement.
Les fois où Verratti a été le plus à l'aise, c'est quand l'équipe jouait avec un rythme bas, que ce soit l'Italie de Mancini ou le PSG de Laurent Blanc, avec donc un joueur qui était un 6-8 qui s'occupait aussi de la relance, ce soit Mota avec le PSG ou Jorginho avec l'Italie, et un mec 20 mètres devant, Matuidi et Barella. Et là, individuellement, c'est là où Verratti c'est le mieux adapté. Maintenant, quand il y a un rythme plus haut avec des Messi et Neymar sur le terrain, c'est plus compliqué pour lui de ressortir individuellement, même s'il le fait quand même.
Et puis le truc, c'est que quand on parle de Mota, on parle du mec qui est à la fois capable de jouer 6 et qui est à la fois capable de jouer 8. C'est-à-dire que Mota, il sait défendre en zone, il est moins bon en défense sur l'homme que Marco Verratti, mais c'est peut-être le seul domaine sur lequel Marco Verratti est vraiment devant. Et sinon, il est capable de jouer 15 mètres plus haut.
Oh, Samir !
On va laisser Samir mais au niveau de l'adaptabilité tactique, avec un Mota, t'as toutes les armes dans ton arc, donc c'est très difficile de comparer.
It's Samir's time. Et merci Samir. Le problème de Verratti, c'est que depuis sa pubalgie en 2016, il a enchaîné pas moins de 30 blessures, c'est beaucoup trop.
Aussi, on n'en a pas parlé.
J'avais pas ce chiffre en tête, mais j'avoue que c'est énorme. Alors, on est à 30 minutes, 32 minutes de live. On va aborder un sujet suivant. On va parler du cas de Sarabia, entre guillemets. On va évoquer le problème de manière plus globale. Sarabia, les rumeurs, ce serait qu'il va partir pour 5 millions. Je ne sais pas si c'est vrai ou si ce sera plus. Mais en fait, ça met en lumière une politique de vente du Paris Saint-Germain qui est, j'ai pas de meilleur mot que horrible depuis des années, où on n'arrive pas à vendre des joueurs. Là encore, en fait, Sarabia, il serait parti en prêt. À mon avis, il serait parti en prêt encore une fois. La seule raison pourquoi on a réussi à le vendre, c'est parce qu'on a dépassé la limite des prêts. On ne peut plus prêter d'autres joueurs. Donc là, c'est le moment de se débarrasser parce que les clubs, ils vont être obligés de les acheter. Et là, même quand tu es obligé de le vendre, tu le vends 5 millions. Donc là, déjà, Basto et Dreyas, je vais vous demander de nous faire un petit résumé de ce que vous avez pensé du passage de Sarabia au Paris Saint-Germain. Et dans un deuxième temps, essayer de développer sur la politique de vente du Paris Saint-Germain.
Alors pour le premier, il faut se poser la question, comment ça se fait que Sarabia, qui vaut 3,5 au Paris Saint-Germain, quand il arrive au Portugal, il vaut 7 sur 10, et puis quand il revient à Paris, il vaut 2 sur 10. Ensuite de ça, pour la deuxième question, bah en fait, il faut se corréler à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le niveau des joueurs baisse à Paris. Donc quand tu achètes un joueur avec une valeur marchande X et que l'un dans l'autre, dans la perception, ton joueur a une valeur marchande à la fin de la saison ou quand tu pourrais avoir envie de la vendre de X-20 ou X-20% ou etc. etc. Ben inévitablement, c'est très compliqué de vendre et c'est très compliqué de rester cohérent. Et enfin, il faut rajouter le côté Gollum de Nasser. Nasser et c'est précieux. Nasser, avant, il y avait les 36-15 hotline Nasser que les joueurs pouvaient appeler. Ça nous a valu des débats avec Bel Silva et consorts. Mais au-delà de ça, on sait que Nasser, c'est Marco Verratti, c'est Marquinhos. Pour lui, c'est le nouveau PSG, c'est l'incarnation du PSG, c'est précieux. Il ne va jamais les vendre, etc., etc., etc. Tu me rends ces trois trucs-là, des joueurs qui arrive pas. Alors pour Sarabia, c'est la problématique, c'est le rapport avec les remplaçants. Les remplaçants à Paris, ben ils arrivent pas parce que ils savent que de toute façon, ils compteront pas derrière. Ensuite de ça, tu vas avoir les titulaires qui, ben mine de rien, ont du mal à s'exprimer dans le collectif, etc. et baissent un peu de niveau, donc perdent ne serait-ce qu'un petit peu en valeur marchande, excepté des Kylian Mbappé, parce que c'est Kylian Mbappé, mais ça n'est vrai qu'avec Kylian Mbappé. Et tu prends tout ça, ben après, c'est dur de vendre, quoi.
Pour moi, Sarabia fait partie typique des joueurs qui ont besoin d'être cadrés tactiquement et qui ont besoin de mouvements prédéfinis et travaillés. Il est allé au Sporting avec Amaury Mikasa et il a brillé à Séville, où c'est toujours été une culture collective avec pas mal de mouvements. Il a été bon. Tu me dis aujourd'hui, par exemple, tu le mettrais à Chelsea United, c'est là serait la même merde qu'à Paris. Tu le mets à l'Atlético, qui a un style particulier différent, mais qui est cadré, ou tu le mets peut-être dans le Arsenal d'Arteta, je pense qu'il s'en sort mieux parce qu'il y a du jeu en triangle, parce qu'il y a des mouvements. Parce qu'il y a quelque chose. Donc Sarabia fait vraiment partie des joueurs qui, un, ont besoin d'un cadre collectif et deux, ont besoin de rythme. Cette année, quand il revient, il commence le trophée des champions et le match contre Clermont, et il n'est pas mauvais, il fait ses deux meilleurs matchs de la saison, de très loin. Et derrière, il disparaît pendant 7 matchs, je crois qu'il joue 20 minutes. Donc là, c'est fini pour lui. Pas de rythme, hop, la tête qui a lâché, je pense qu'il n'est pas heureux. Et donc voilà, Sarabia avait bien débuté la première année quand il avait du rythme et plus de temps de jeu, et puis derrière.
J'ai une question pour Vincent, moi. Si on peut en mettre son message, on a vendu Siva, Cavani, le bras. Après, le truc, tu vois, c'est que si on veut rejoindre la Ligue Senior de France, ouais, ça peut être pas mal de tous les garder. Mais il y a un moment où tu es obligé de renouveler ton effectif, en fait. Il y a un moment où tu es obligé de prendre des risques. Et des fois, tu vas avoir
raison. Sujet.
Hein? Non?
Moi, je vais sur le sujet Sarabia, on part un peu dans tous les sens.
Mais non, parce que c'est pas le sujet Sarabia, c'est le sujet les ventes au Paris Saint-Germain.
Oui, mais pour le moment, le premier point, c'était Sarabia, qu'est-ce qu'on peut se dire?
Oui, mais non, c'était les ventes. C'était les ventes. Et en l'occurrence, je répondais à Vincent. Et je suis désolé, il y a un moment où quand tu vends, tu prends des risques, tu essayes des choses. Mais il y a un moment où tes joueurs, bah, ils n'apportent pas satisfaction. Et quand tu prends Marquinhos, bah, ça commence à être sensé de commencer à se poser la question, quel est son impact dans l'effectif? Et oui, il faudrait être capable de le vendre. Mais maintenant, réussir à vendre un Marquinhos que tu as acheté tant, qui en soi en ce moment a du mal, a vraiment du mal, et ben réussir à le vendre de manière positive pour le club, c'est vraiment pas évident. Mais bon, après Marquinhos, c'est un cas à part parce qu'on sait que Nasser le vendra jamais.
Et toi, Bastotard, tu as parlé de Sarabia, mais est-ce que tu peux rentrer plus profondément dans la politique de vente du Paris Saint-Germain? Est-ce que tu ferais autrement, ou est-ce que en fait on n'a pas le choix parce qu'on est en Ligue 1 et c'est comme ça?
Non, tu vois, les Mina, ils partent quand même pour 10 millions dans le même club. Donc, en quoi Sarabia coûte deux fois moins qu'un Lemina? Sarabia international et espagnol a fait une grosse saison l'année dernière au Sporting. Ça n'a pas de sens. On a l'impression vraiment que le joueur a demandé de partir et on s'en débarrasse. Alors, peut-être que Luc Valerhampton, c'est Jorge Mendes qui est un peu aux manettes, on lui fait un petit cadeau, j'en sais rien. Mais qu'un Sarabia parte aussi peu cher, ça n'a pas de sens. Alors, il ne coûtait pas 25, mais qu'on n'en tire pas 10-12 dans une équipe qui vient de lâcher 90 millions sur deux inconnus aussi dans les derniers jours, faut m'expliquer pourquoi. Et Campos, il a râlé cet été sur Enrique en disant qu'il vendait mal, il l'a écarté des ventes, et sa première vente, c'est Sarabia, 5 millions dans le championnat anglais. Donc non, il y a un problème de vente, surtout que Sarabia n'avait pas un salaire si mirobolant comme beaucoup d'autres, ça peut être le cas par le passé. Donc oui, on ne sait pas vendre au bon prix, et on fait aussi parfois des erreurs peut-être stratégiques. Quand tu mets 40 sur Equitiquet et que tu vends Kalimuendo 15 ou 20 millions cet été, là aussi, il faut chercher à comprendre. Kalimuendo avait plus d'expérience, avait peut-être plus le profil pour Mbappé en plus. Donc voilà, il y a des incohérences claires et nettes. Et dans les choix de vente, des joueurs qu'on doit vendre qui restent, comme l'a dit Dreas, et des joueurs qui auraient pu rester qu'on vend, et en plus dans le prix de vente qui sont parfois risibles.
Ok, je pense que vous avez un peu tout dit sur la politique de vente du Paris Saint-Germain, qui n'est pas terrible encore une fois. Tout à l'heure, comment il s'appelle, Dreas, il a dit quelque chose qui m'a donné une idée de sujet de ce que j'ai vu passer dans la semaine. Vous vous rappelez du départ de Javier Pastore au Paris Saint-Germain? On va dire que même si on aime beaucoup Javier, il était un peu sur le déclin. Et cette semaine, il sort que Nasser lui avait proposé 5 ans de plus, une prolongation de 5 ans de plus, et que c'est lui, Pastore, qui s'est dit « Je ne peux pas faire ça au Paris Saint-Germain, je n'ai pas la force et je ne suis plus à bon prime pour honorer ce contrat de 5 ans ». Mais ces déclarations, tu te dis « Mais Nasser, qu'est-ce que tu fais ?» Tu peux être président et laisser le sportif tranquille, s'il te plaît, parce que là, c'est, je sais pas ce que tu fais, mais c'est pas bon.
C'est les précieux. Les précieux de Nasser. C'est le Nasser Gollum, voilà.
Et toi, Basto?
Oui, bah, je crois, en plus, on arrive quand même à le vendre 25 millions pour une fois, c'était bien vendu. Non, en plus, Pastore, tous ceux qui l'adoraient comme nous, on était pour son départ depuis même un an déjà, que ce soit pour le bien du club et pour le bien du joueur. Donc, il n'y avait aucune raison de faire cette proposition. Après, un Verratti, par exemple, ce serait beaucoup plus débat. Je pense que si Verratti part, ça va réagir quand même une grande majorité des supporters. Mais un Marquinhos que tu vends 50, 60 millions, je pense que maintenant, ouais, je pense que ce serait accepté, par exemple. Mais bon, on va le prolonger, on va l'augmenter, puis il va finir sa carrière au club.
Ok. Bah, écoutez, les gars, on va aborder un autre gros sujet de cette émission. À l'approche du match contre le Bayern, j'aimerais entre guillemets que ça se joue pas encore à une histoire de domicile extérieur, même si ça compte plus les buts extérieurs, il y a quand même le fait de pas réussir à gagner tes matchs chez l'adversaire. Donc ce que je voulais aborder avec vous, c'est pourquoi le PSG est aussi faible à l'extérieur, parce qu'on l'a vu encore à Lens la semaine dernière. J'ai l'impression que dès qu'on va dans un stade où il y a une grosse ambiance contre nous, bah du coup les joueurs ils perdent un peu leurs moyens. Et je sais pas si c'est que ça ou si c'est autre chose, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais on remarque que par exemple, pas mal de fois où on s'est fait éliminer en Ligue des Champions, on avait gagné chez nous, on a perdu là-bas. Donc pour vous, est-ce que le PSG cette année pourrait, même si je crois il y a 2 ans on a gagné au Bayern, mais est-ce que cette année vous... Ouais. Est-ce que cette année, vous pensez que on peut faire le travail là-bas encore une fois? Dreyas, Basto.
J'y vais.
Vas-y.
Alors, pourquoi on est aussi faible à l'extérieur? Je pense qu'il y a plusieurs points. On est une équipe qui est nerveuse, on va dire des joueurs qui peuvent vite perdre les pédales. On a une équipe qui décroche mentalement. Bon, c'est les traumatismes qu'on a eus. Et le fait, même à domicile, hein, beaucoup de matchs de Ligue 1 qu'on va gagner à l'arraché ou qu'on va faire match nul au parc, on en a vu pas mal, ça tourne dans notre sens à 1-0, mais beaucoup de nervosité, etc. Et à l'extérieur, forcément, l'équipe qui nous joue a un surplus. Le fait de jouer à domicile a ce surplus. Donc ça, les matchs qui sont à la limite basculent dans l'autre sens, forcément, quand à l'extérieur plutôt qu'à domicile. Maintenant, est-ce que c'est qu'une question d'extérieur? Je ne pense pas, parce que tu as cité le match qu'on gagne à Munich, même si on fait un bon match au retour, on le perd, mais c'est juste avant, on gagne 4-1 à Barcelone en faisant un super match en 8e, et le match retour, on se liquifie. On est mené 1-0, il y a l'arrêt de Navas sur pénalty, mais on se dit tous qu'on va le perdre 3-0, si 4-0, qu'on va finir par avoir une nouvelle remontada si Navas n'arrête pas ce pénalty à ce moment-là. Donc, voilà, on a surtout été éliminé parce qu'on a surtout joué le match retour à l'extérieur, mais est-ce que ça a une vraie influence en Ligue des Champions? Je suis pas sûr, je pense que c'est juste garder un score et dès qu'il y a un moment nerveux où on perd les pédales, on sort de nos matchs.
Bah, je vais aller un peu moins dans le même sens que Basto. Pour moi, c'est une équipe qui est très friable mentalement. Alors bien sûr, ils sont solides et on serait à leur place, on s'écroulerait bien plus vite mentalement. Mais ils sont entraînés pour ça, pour être capables d'eux. Et dès qu'ils ont l'impression de subir une injustice, enfin, faut se souvenir hein, de l'époque où Taïbra qui se prend un carton rouge et du match qu'on fait derrière contre Chelsea. Il y a eu des périodes où on était quand même vachement plus solide mentalement. T'as la même chose qui se produit aujourd'hui. Je pense pas qu'on est capable de le refaire. Et je suis pas sûr que ce soit lié à domicile à extérieur. Alors après, c'est sûr qu'à l'extérieur, tu vois, par exemple, à l'extérieur, tu vas avoir 55% d'événements qui vont être un peu plus contraires à toi et par rapport à domicile. Et donc, inévitablement, il y aura un peu plus de prétextes pour réussir à ne pas tenir mentalement. Mais le fait marquant, comme pour Basto, je suis d'accord avec lui, c'est que Paris n'a pas de mental, en fait. n'a pas un mental en tout cas assez suffisant pour aller très loin dans les compétitions.
Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je crois qu'au-delà de même la Ligue des Champions, je ne sais pas si vous arrivez à vous remettre dans les dernières années, ne serait-ce qu'en Ligue 1,
oui.
On a beaucoup de mal contre les gros chez eux. Je ne sais pas si c'est l'année dernière, où il me semble qu'on a pris 5-1 face à Lille.
C'était il y a 3 ans, avec une équipe avec plein de blessés qui venait d'être éliminée de la Ligue des Champions, donc c'est un peu... Contextuellement, c'était pas le match le plus simple, mais comme je l'ai dit, on a souvent la différence entre dans nos performances entre les matchs contre les gros de Ligue 1 à domicile et à l'extérieur sont minimes. Hein. Les matchs au parc, on va les gagner à l'arrache contre les gros. J'ai des souvenirs aussi sous blanc, on ne gagne que 3 matchs sur 12 contre les équipes du podium, donc c'est pas nouveau. C'est juste que la limite et la marge est très faible, mais à domicile, elle va aller dans ton sens parce qu'il n'y a pas la pression du public adverse, que l'adversaire n'a pas la même motivation. Et qu'il y ait une plus grosse pression aussi pour Paris.
Juste au lit, ça.
Et le mieux serait de vendre tous les joueurs. Oui, ben ça, on est d'accord. Oui, ça fait des années qu'on dit.
mais tu peux pas... En fait, tu peux pas dire que c'est leur faute. Mais je pense que peut-être, ils ont été traumatisés par le fait qu'on se soit fait voler.
C'est ça. Et puis même, ils l'incarnent pour les gens. C'est-à-dire que les gens, à la moindre truc, ah bah tiens, par exemple, ce qui arrive à Marquis, à moindre truc, on va dire, ah ben bah ouais, mais bah t'as vu, il était déjà la remontada. C'est qu'il y a ce putain de marqueur dans le passé. Pardon, il y a ce marqueur-là dans le passé. Et même les observateurs vont revenir à chaque contre-performance. Et ils sont enfermés dans ce truc-là. Et il y a cette espèce de boucle qui se crée qui... Faut savoir repartir de nouveau. Et le truc, c'est que ici, avec la remontada, mais il y a aussi Manchester United, il y a aussi des déceptions, il y en a plein. Et à chaque fois, les joueurs étaient là, quoi. Et à chaque fois, ces mêmes joueurs étaient là. Donc, il faut savoir.
Du coup, tu avais une théorie, toi, en off, sur le final 8 et le match à huis clos.
Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être juste ton hasard. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez de l'année où on sort face à City en demi. Tout se passe bien jusqu'à, même si c'est par miracle quand même qu'on sort le Bayern, mais on a réussi à gagner le Bayern chez eux, chose qu'on a mentionnée tout à l'heure. Mais n'oubliez pas qu'il n'y avait personne, c'était le Covid. Le stade, il était vide, il n'y avait pas l'ambiance du Bayern, etc., etc. Et après, direct, le public, il revient comme par hasard à Manchester City. Et une fois que le public il est revenu, bah encore on s'est liquéfié et on n'a rien pu faire là-bas. Et quand tu repars au final 8, l'année où le PSG il va loin en Ligue des Champions, bah, il n'y a pas de public. Et tu te rends compte que toutes les grosses remontadas, l'ambiance au Camp Nou, elle était folle. Mmh. Santiago Bernabéu, dès que Benzema il a marqué son premier but, bah, c'est devenu n'importe quoi. Et à chaque fois, tu te dis, comme ils ont dit tout à l'heure, qu'il y a un problème de mental. Mais j'ai l'impression, une fois qu'il y a une ambiance de fou et tu sens, ils ont ce sentiment que, entre guillemets, c'est inévitable. Ils vont pas pouvoir tenir le score. T'as l'impression, l'ambiance et tout ça, ça joue dans leur tête et ils se disent, ça y est, c'est cuit, ils sont contre nous et peu importe ce qui va se passer, l'arbitre, il va faire ceci, ou il y a une balle contrée, elle va sortir, elle va faire un angle bizarre, ça va rentrer dans les corps. Et dans tous les cas, c'est plié. Et les mecs, ils abandonnent.
mais c'est vrai. Mais en fait, tu vois, je pense que c'est juste que quand tu es à l'extérieur, tu as un petit peu plus de stimuli sur lesquels il faudrait être plus solide mentalement. Donc, ça se produit plus souvent. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis. Et c'est vrai. Et je pense que c'était le match contre Real. Tu domines la première mi-temps du retour. Mais tu domines la première mi-temps du retour. Mais tu sais déjà que tu vas perdre le match, en fait. C'est un truc de fou avec ce club.
Pas forcément la mi-temps, mais tu le sais avoir un partout, oui.
Ouais, mais même à la mi-temps, tu te dis, tu sais, on n'est pas rassuré quoi. À chaque match quand on rentre sur une confrontation directe, tu peux avoir. Enfin, ça c'est aussi. Nous aussi, on a été traumatisés par la remontada. On a 4-0, on a écrit une statistique quoi. Les gens, faut s'en rappeler. Et de toute façon, avec l'expérience, on a toujours peur. On a toujours peur. Mais c'est pour ça, c'est peut-être pour ça qu'on s'en souvient plus, parce que, tu sais, Nick, je me souviens aussi de prestations à domicile qui étaient assez indigentes au niveau mental et au niveau technique du Paris Saint-Germain.
Après, pour revenir à la théorie de notre patron, qui est intéressante, après, il ne faut pas oublier que le final 8, c'est particulier parce que c'est un one-shot, donc tu ne peux pas avoir de remontada vu que le match est sur une manche et il est sur terrain neutre en soi. Il n'est pas au parc, mais il est sur terrain neutre, donc c'est différent d'un aller-retour où tu vas à l'extérieur. Munich, c'est le match aller. On gagne, comme tu l'as dit, par miracle, mais c'est pas un match retour, donc c'est le match aller. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même ce côté, c'est surtout le match retour qui est dans nos têtes plus que l'extérieur, c'est vraiment quand on a de l'avance et qu'on se fait rejoindre ou rattraper au match retour, on lâche.
Mais en fait, tout à l'heure, Dreyas, il a dit quelque chose qui est intéressant, parce que on critique les joueurs des fois, mais là, je viens de me rendre compte que les joueurs, entre guillemets, je sais qu'ils sont humains, mais en fait, je veux dire que ils ont la même chose que nous dans leur tête. Parce que nous aussi, quand Benzema il a égalisé, moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est fini. Donc, je comprends que eux, peut-être, dans leur tête, ils se disent la même chose. Et moi, je me dis ça de mon canapé. C'est pas très grave. Mais si t'es sur le terrain et tu te dis que c'est fini, bah, dans tous les cas, c'est fini. C'est ce que je veux vous dire. En fait, on tombe sur eux, mais si on se remet en question, moi, je connais quasiment personne qui s'est dit, bon, bah, on va quand même marquer un deuxième but. On va revenir dans le match. Moi, les gens avec qui j'étais, tout le monde a dit, vas-y, c'est plié.
La grande différence, c'est que notre salaire, il ne chiffre pas en millions. Notre salaire annuel. C'est vrai.
Et on a même 0 euros pour les regarder. Hein. On paye pour les regarder.
Et le truc, c'est que pour eux, c'est un métier. Alors, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais c'est pas pour autant que c'est une excuse et c'est que c'est une raison par rapport à ça. Néanmoins, ce que tu viens de dire, c'est juste que ça remet du moulin dans l'eau à tous ceux qui ont participé à la remontada doivent partir.
Bah surtout qu'en vrai, c'est des joueurs qui ont encore une cote financière. Oui, mais en soi, ça me déchirait le cœur que Marco il parte, mais entre guillemets, si tu arrives à bien le remplacer, je pourrais entre guillemets passer à autre chose. Mais le problème, c'est que comment tu remplaces Marco Verratti?
Après, ça dépend. Le truc, la grande question, c'est quelle est la valeur marchande de Marco Verratti? Si Marco Verratti part pour 120 millions et que t'as Campos qui, soi-disant, a du talent pour ça, il va falloir qu'il le montre. Et qui va trouver des gros prospects.
T'inquiète, il mettra quand même Fred Thuram.
Ouais, mais non, mais justement, tu vois, trouver un 6 cohérent, ou sinon on ne veut pas jouer à trop milieu, mais en fait, trouver un effectif qui est cohérent par rapport à la manière avec laquelle on veut jouer et avoir des titulaires et des remplaçants, tout dépend de la valeur marchande de Marco Verratti. Si effectivement, le moindre joueur que tu veux acheter, il coûte 70 millions et que Marco Verratti, tu veux le revendre 80 millions, et ben effectivement, tu n'auras pas la solution parfaite. Elle n'existera pas. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est si tu commences pas par vendre Marco Verratti, la solution, tu y iras jamais, tu resteras toujours bloqué au même endroit. Quoi.
L'exemple type, même si c'était au moment de la fin de leur carrière, c'est Mota qui a été très mal remplacé, voire jamais remplacé, et Silva qui est remplacé par Ramos. C'est sûr si Verratti part, écoutez, un remplacement, oui, on va pas vendre Verratti pour vendre Verratti, mais là, c'est un problème d'achat et de cohérence du club. Enfin, il y a tout problème complexe de ce club.
Bah c'est ça le truc, parce que moi, entre guillemets, je comprends votre argument, faut se débarrasser de tous ceux qui ont fait la remontada. Mais comme Basto il a dit, Mota on n'a toujours pas à remplacer.
Oui.
Ça fait 5-6 ans. Si tu n'arrives pas à remplacer Mota, comment tu remplaces Verratti? Parce que Verratti, à la limite, tu pouvais le faire jouer 6, 8, 10.
Attends, Mota Verratti, c'était pas si bon dans que ça. Hein. C'était pas si
non, mais c'est pas ça. Hein. Mais c'est juste dire que tu l'as toujours pas remplacé. Et oui. Verratti, vu ce que tu achètes encore au milieu. En fait, on va basculer sur le sujet d'après qui va se compléter, parce que moi, je comprends pas pourquoi on claque des 220 millions en attaque. On claque encore alors qu'on a déjà trois défenseurs, en trois attaquants. Bon, on continue à claquer des 60. On a mis 70 millions sur Icardi alors qu'on avait déjà Messi, Neymar, Mbappé. On a mis des 70 millions sur Hakimi. Vas-y, on était prêt à mettre 70 millions sur Skriniar. Pourquoi chaque milieu de terrain, on ne veut pas dépasser les 20 millions? C'est le cœur de ton jeu. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi on n'a pas un top milieu? Pourquoi ça fait 5 ans qu'ils n'arrêtent pas de bricoler avec nous? Pourquoi ils ne veulent pas nous prendre un top milieu une bonne fois pour toutes? Comme ça, le problème, il est réglé. C'est pas Gueye, c'est pas Herrera, c'est pas Vitinha, c'est pas Fabien Ruiz qui va faire quelque chose dans ton milieu. Je suis désolé, au bout d'un moment, il faut que tu casses ta tirelire et que tu investisses dans le milieu, parce que c'est le plus important dans une équipe. Tu peux même retirer... tu peux même mettre Bichabou en défense. C'est mieux que si tu mets Skriniar en défense. C'est un milieu qui prend l'eau et tu te prends des vagues et tu te prends des vagues et Skriniar, il va flancher. Dans tous les cas, on l'a vu avec Marquinhos.
Mais juste, Igor jubile avec son Vitinha, Igor alias Madar. Il est content qu'on critique enfin Vitinha. Vas-y Seb.
Je ne sais plus ce que je voulais dire.
Sur le milieu, plutôt que la défense,
investir au milieu. Mais le problème du milieu, c'est que ce ne sera jamais un joueur. Donc si tu veux, problème du milieu, c'est que si tu veux constituer un milieu, c'est par touches successives. Et heureusement, pour faire plaisir à Igor Terry Ravi, on a Vicinia, on a la première pièce dans l'échiquier, quoi. Bon, même si là, depuis le début de la saison, il a un pied devant l'autre. Vicinia, il faut se mettre à sa place 2 secondes. Le mec, il fait une bonne saison au Wolves, ensuite de ça, il retourne à Porto, il fait une bonne saison. Et là, il arrive à Paris, et Paris, on lui dit « Alléluia, on a enfin un bon milieu depuis Thiago Motta ». Genre, le mec, c'était juste le meilleur milieu de terrain qu'on ait eu depuis 8 ans. C'était peut-être un peu lourd à porter, et c'est normal qu'au niveau mental, lui, pour le coup, je lui trouve des excuses, qu'au niveau mental, ce soit un peu complexe. Entoure-le d'avec un petit peu plus d'expérience, un mec qui est carré, et tu commenceras à avoir une solution. Et à titre perso, Vitinha, je ne le jette pas tout de suite. Vraiment pas.
Mais non, mais par contre,
la problématique, c'est que le milieu, c'est pas un seul homme, c'est soit 2, soit 3, et c'est des joueurs qui doivent être en adéquation. Là où, par exemple, la charnière, et ben, c'est juste 2. L'attaque, c'est presque des trucs un peu différents. Mais le milieu, c'est comme tu l'as dit, c'est une pièce majeure, et du coup, il faut que tu aies tout de suite une cohérence avec ton milieu, parce que sinon, tu vas prendre l'eau et ça va être la catastrophe. Et donc, il t'en faut plusieurs. Milieu, il manque au moins 3 joueurs là.
Au-delà de la cohérence, il manque, comme en défense, il manque du leadership. Dans les moments forts, si Verratti est moins bien ou s'il est absent, c'est pas Ruiz et Vitinha qui prennent le relais. Donc il manque un cador avec Brozovic, etc., etc. Mais un mec de calibre qui montre que sous la pression, c'est lui dans les moments durs qui va faire avancer le jeu, qui va prendre les clés. On n'en a pas au milieu. Donc c'est sûr qu'on n'a pas de leadership derrière, on n'a pas de leadership au milieu, c'est un peu compliqué.
Bah moi je serais d'avis que tant qu'on se sacrifie pas et qu'on n'achète pas un gros milieu de terrain, bah je suis désolé, on va pas faire grand chose. Hein, parce que moi ça c'est encore du bricolage qu'on a fait cette année.
Il y a du mieux quand même.
C'est mieux que l'année dernière, je suis d'accord.
Au niveau du milieu, notamment, il y a... On a quand même quelques petites certitudes, elles sont très fragiles, mais on a quelques petites certitudes au milieu. Maintenant. Tu veux reconstruire ton milieu, et ben remets une pièce dans la machine dès cet hiver et ramène un joueur et remets une pièce dans la machine l'été prochain. Et là, tu auras un milieu compétitif. Tu vois, on a eu des éléments, on a eu des moments qui étaient intéressants entre octobre et décembre avec le milieu à 3, Verratti, Vitinha et Ruiz. Plus intéressant, enfin, la dernière fois que c'était aussi intéressant, c'était Motta pour moi. Donc on a eu des trucs. Ben, mets de la concurrence là-dedans maintenant. Mets de la concurrence là-dedans avec des joueurs qui sont capables d'apporter cette concurrence. Non, Danilo n'est pas un remplaçant à Ruiz, c'est pas possible, ça peut pas marcher, etc. etc. Mets de la concurrence et puis entretiens le truc. Voilà.
Après, je disais avant qu'on ne s'occupait pas de la fondation et on faisait le papier peint. Alors là, c'est pas le papier peint, c'est un peu mieux, on s'est occupé de meubles un peu rongés par les mythes, etc. Mais on n'a toujours pas fait non plus la fondation. Et mine de rien, on a mis 100 millions sur Renato, Soler, Ruiz, Vitinha. Et il n'y a pas le gros joueur. Et tu as quand même mis 100 patates, tu vois. Donc, si tu ne fais pas le gros milieu cet été, tu auras refait de nouveau que le décor, tu vois. Et au bout d'un moment, il va falloir s'attaquer un jour à la maison balbutiante et refaire les fondations pour pas qu'elle s'écroule.
Ouais, bah, le problème, c'est que quand tu auras fait ça, tu auras perdu 5 ans parce que tu as eu le grand moment de l'apogée du Paris Saint-Germain, entre guillemets, où tu avais Neymar, Messi, Mbappé. Ça, tu l'auras pas éternellement. Ça veut dire qu'une fois que tu vas t'occuper du chantier du milieu, bah, tu n'auras plus d'attaque.
Ça sera pas la peur, Sanix. Le truc, c'est que t'as Neymar et Mbappé qui s'en vont. Neymar, Messi et Mbappé qui s'en vont. Après, si t'en as 2 sur les 3 qui s'en vont, t'économises dans les 80 millions d'euros par an en salaire en transfert. Et ça va te libérer et de la masse salariale et de l'argent pour investir dans les clubs. C'est aussi n'importe quoi d'avoir ces 3 attaquants.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer encore? On sait très bien. En fait, j'ai compris le fond de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est que le Paris Saint-Germain est un acheteur nul. Donc, en fait, une fois que tu as trouvé des joueurs qui sont un peu plus bons que la moyenne, tu peux pas les vendre. Parce que, en fait, tu t'es tellement gouré sur des achats que, En fait, tu as acheté Verratti il y a 10 ans pour 10-15 millions, je crois.
Oui.
Très bon achat. Donc, tu peux pas t'en débarrasser. Après, tu as acheté des Gay, des Herrera, des je sais pas quoi. Là, tu as Neymar, Messi, Mbappé. Tu as claqué de l'argent, mais c'était incontestable. C'était des purs cracks. Et là, il n'y avait pas de risque. Ça t'a coûté très cher.
T'as le risque de les accumuler après.
Voilà, le fait d'en avoir, c'est peut-être un risque en soi. Hein.
D'accord. Mais ensuite, quand ils vont partir, qui est-ce qui vous dit qu'on va pas claquer, pas, 80, 90 millions sur un Icardi bis? C'est ça le problème. Le problème, c'est que là, on a une attaque, elle est validée par tout le monde. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de peut-être. Mais ils n'ont pas de milieu de terrain. Quand je regardais encore PSG Angers hier soir, je regardais le replay encore à froid. Quand tu vois le nombre de fois que Neymar il décroche et qu'il descend, je sais pas où, pour aller chercher le ballon, je suis désolé. En fait, tu es en train de gâcher ton trio d'attaque. Là, c'est pas genre quand ils vont partir, il faudra acheter un milieu. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu es en train de décaler le problème. C'est-à-dire que tu vas faire ton milieu de terrain. Une fois que tu l'auras fait, tu n'auras plus d'attaque. Donc au final, à quel moment que tu as une équipe équilibrée? Tu es en train de décaler des problèmes d'année en année.
Il n'y aura jamais d'équipe équilibrée.
Pour reprendre ce que tu disais, à partir du moment où tu as les trois de devant qui part, les Qataris vont devoir racheter le nouveau truc bling-bling. Parce qu'ils sont dans une relation de « je veux le produit ». Ils ne sont pas dans une relation de « je veux construire une équipe ». Et c'est toute la mentalité, tout le mindset en fait des Qataris, qui d'ailleurs n'est pas que critiquable. Hein, ce qu'ils ont fait avec le Paris Saint-Germain, il y a des choses extraordinaires qui ont été faites avec le Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier, quand on est en train de critiquer le club, qu'ils ont pris une marque qui avait un potentiel pour en faire une des marques les plus vendues aux États-Unis, une marque qui est capable de rivaliser avec les équipes anglaises en Asie. Tu fais la NBA, tu vas pas voir des mecs avec des maillots de Manchester United. Par contre, les maillots PSG X Jordan, t'en as en une pelletée. Et donc, il y a plein de choses qui ont été bien. Mais par contre, pour le foot, ils ont un rapport de produit. C'est-à-dire qu'ils veulent le bon produit, ils veulent le bon truc, le truc qui marche, qui machin, qui truc. Ils sont pas dans cette logique de construire une équipe de foot. Et donc, ouais. Et à partir de là, tant qu'ils seront dans cette logique-là, tu n'auras pas de solution. Tu continueras de reproduire les mêmes erreurs encore et encore et encore et encore. Que les Qataris restent avec le club, mais qu'ils nomment un vrai responsable football à la tête du club et qu'ils ne se concernent plus du foot en tant que tel, mais qu'ils attendent des résultats, et déjà on sera passé à autre chose.
C'est clairement la meilleure solution pour moi. Après, on en revient au même problème. Est-ce qu'ils vont pouvoir recruter un mec qui connaît le foot et qui est bon? Est-ce que leur problème, il est clairement donc...
T'as pas forcément besoin d'un mec qui connaît le foot. T'as besoin d'un mec qui a de l'autorité, qui est capable de faire des choix, qui est capable de prendre des décisions. Par exemple, est-ce qu'on peut dire que Jean-Michel Aulas connaît le foot? Je suis pas sûr. Jean-Michel Aulas, bon, il a fini par le connaître, mais Jean-Michel Aulas est devenu un excellent président. On a besoin d'un excellent président qui saura s'entourer. Le problème avec Nasser, quand tu regardes, c'est dès qu'il laisse du pouvoir, il panique. Et à l'arrivée, il veut récupérer tout le pouvoir et il veut prendre toutes les décisions. Elle est là, la problématique. Nasser aurait pu être un très, très, président, très bon président s'il savait vraiment déléguer, mais il ne sait pas le faire. Il n'aime pas le faire. Alors, est-ce qu'il n'aime pas le faire parce que c'est lui ou parce que c'est par rapport aux demandes de l'émir? Ça, on ne saura jamais. Mais dans les faits, il ne le fait pas.
Quasi 400 millions de pertes, ça marche en effet, nous dit Igor. C'est vrai que nos pertes depuis 3 ans sont catastrophiques. Donc, on a des revenus, on a des pertes qui sont beaucoup plus fortes, on a une masse salariale qui explose et on a de moins en moins de marge sur le marché des transferts. Donc, même le modèle économique qui était bon les premières années devient de plus en plus compliqué pour nous. Donc il y a un problème là-dessus aussi. Il est bloqué quand même depuis plusieurs années sur les marges de transfert et de mercato.
Un bon président doit avoir un connaisseur très, très proche de lui pour l'aider à s'entourer.
Non, un bon président, comme disait Dreyer, c'est pas forcément quelqu'un qui connaît le foot, c'est quelqu'un qui laisse ceux qui connaissent le foot travailler. Travailler sur le domaine sportif, tout simplement. Si City avait mal débuté, City a compris.
Et qui est capable de prendre des décisions et de taper du poing sur la table et de gueuler, et de se faire obéir, etc. etc. Mais c'est savoir s'entourer.
Non, par contre, Dreyas président, non, je ne suis pas d'accord avec est en train d'écrire. Le club irait à sa perte.
La première chose que je fais, c'est que je mets Basto, je ne sais pas où, mais tu as nettoyé mes chiottes.
À la buvette.
Mais j'avoue, petite illusion, on va dire qu'on rêve. Demain, tu es nommé président du Paris Saint-Germain. C'est quoi ta première décision, Zedayas?
De trouver un très très bon directeur sportif. Trouver un très très bon directeur sportif.
Ah, tu sautes campus?
Oui, oui, oui. Pour moi, j'ai besoin d'un mec qui soit capable de décisionnaire et d'avoir une vision à moyen terme. Pour moi, Campos, c'est du court terme. C'est du très bon court terme, mais c'est du très bon court terme. Mais j'ai besoin d'un mec qui a une vision moyen terme, voire long terme.
Ok, les gars.
Moi, je vous demande pas juste ce que je ferais si j'étais président.
Bah, en fait, si tu étais Dreas président, mais toi, vas-y, vu qu'on a commencé à partir dans la fin.
Déjà,
dans
je
la
me donne coach. Non, je rigole. J'ai fait une charte qui interdit l'accès au parc des supporters de Gueye et Aurier.
Des supporters de qui?
De Gueye et Aurier.
Ah, oui. Je te rejoins dans ta. Je vais signer ta pétition. T'inquiète.
Merci.
Moi aussi, je saute Campos perso. Moi, je pense qu'on est un peu dur avec Campos. Ça fait six mois. Et certes, ses choix, ils sont pas très bons, mais il n'a pas fait pire qu'Henrique, par exemple. Il n'a pas fait pire qu'Henrique sur ses recrues. Campos. Parce que lui, il nous a pris des joueurs qui sont pas bons, peut-être pour l'instant déjà. Ça fait que 6 mois. Mais en plus, il les a pas énormément payés. Je vous rappelle qu'Henrique, il a acheté Thilo Kehrer 35 millions. Il a acheté Abdou Diallo 35 millions. Il a acheté Guedes 35 millions.
Diallo, c'est Leonardo.
Et Kehrer, c'est Tourelle qui a touché une com de folie. Le joueur a été vendu 17 millions. Pour Campos, je ne reproche pas à Campos cette saison. C'est trop tôt pour lui reprocher quoi que ce soit. Campos, la problématique, c'est que c'est du court terme. C'est pas forcément du long terme. C'est-à-dire que c'est plus... Ça va plus être une logique par rapport à des joueurs et comment les agencer maintenant plutôt que de construire un projet de club sur la durée. C'est pour moi, Campos, tu vas le prendre une fois que tu as une structure bien en place et que tu as un directeur délégué qui connaît bien le foot. Et à ce moment-là, tu as besoin de rebooster, tu as besoin de passer par un peu des jeunes et tout. Et bah, tu vas prendre Campos pour une mission de 2 ans. Et c'est parfait à ce moment-là.
3 ans, ouais, c'est qui a fait que Monaco et Lille ont été champions.
Ouais, 2-3 ans. Mais voilà, mais c'est juste une mission. C'est-à-dire, c'est une mission dans un time frame précis. Mais quand tu as besoin de construire une logique sportive d'un point de vue global, pour moi, Campos n'est pas l'homme idoine. C'est tout. Je n'étais pas en train de remettre Campos sur cette saison. C'est juste la logique de prendre Campos si tu veux construire une logique, si tu veux identifier ta logique. C'est un deuxième temps, Campos. Quand tu as besoin de produire des objectifs.
On va fermer la minute fantasy. On va revenir au mercato actuel. Alors, je voudrais votre avis sur une rumeur actuelle que moi, je ne valide pas du tout. Au départ de Sarabia, ce qui se dit, c'est qu'on pourrait se positionner sur Marcus Thuram qui est à 10 millions cet hiver, voire gratuit cet été, pour le remplacer. Moi, déjà, dans un premier temps, avant de fusiller Marcus Thuram, je vais déjà parler du profil. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un attaquant? Pour moi, non. Pour moi, si tu vas prendre un mec, tu vas prendre un mec en défense, voire au milieu. Et deuxièmement, pourquoi prendre Marcus Thuram? Tu as déjà Ekitike qui est en mode prometteur, vas-y, on ne sait pas ce qu'il va donner. Tu veux prendre un autre mec qui a du potentiel, mais on ne sait pas ce qu'il va donner non plus. Ça fait beaucoup d'incertitudes. Après, tu me diras, peut-être c'est pour... tu te protèges parce que tu peux dans tous les cas faire une plus-value dessus derrière. Mais déjà, je voulais votre avis, savoir est-ce que vous recruterez un attaquant à la place de Sarabia? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce que vous pensez de Marcus Thuram? Basto Raya, vas-y.
Marcus Thuram, c'est potentiellement un bon joueur, mais tu es encore en train de t'acheter un énième joueur qui va garnir tes rangs, que tu seras incapable de vendre et pas vraiment en mesure de faire jouer. On a déjà fait, refait ce genre de move. Il y a un moment où on a besoin d'identifier nos besoins et de répondre à nos besoins. Marcus Thuram, ça a tout du panic buy. Oui, effectivement, il a un profil un peu différent. Enfin, c'est un Renato Sanchez qui se blesse pas et qui joue 10 mètres plus haut, quoi. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Est-ce que c'est une garantie de quelqu'un qui... Est-ce que c'est un prospect qui peut exploser? A priori, non. Et est-ce que c'est... je me souviens plus du troisième point, mais non, quoi. Non.
Basto?
Ouais, alors est-ce que si ça ne va pas, il faut recruter un attaquant? Si c'est acheté pour acheter, clairement non. On attend cet été, puis on verra. Hein, on fait avec ce qu'on a. De toute façon, c'est toujours les trois mêmes qui jouent. Puis tu auras et les jeunes. Maintenant, Marcus Thuram, déjà, c'est plus un prospect, il a 25 ans, on l'oublie. Hein. Il fait un gros début de saison, mais c'est quelqu'un de très irrégulier. L'année dernière, il fait une saison fantomatique, donc c'est quelqu'un qui a des hauts et des bas. Et au PSG, on sait qu'un joueur irrégulier, généralement et qui joue peu parce qu'il sera en sortie de banc finit par être régulier, mais pas dans le bon côté du terme. Et puis même si c'est un joueur percussion, je comprends cette envie de percussion, parce qu'il n'y a pas de collectif, parce qu'il y a les blocs bas, il faut quelqu'un qui percute en fin de match, qui sort du banc. Je peux comprendre la logique. Mais bon, Marcus Thuram, en plus, c'est encore un joueur qui a un côté préférentiel gauche. Campos nous a répété pendant 6 mois qu'on avait trop de joueurs à gauche, qu'il fallait des joueurs à droite. Donc si tu prends Marcus Thuram pour remplacer Sarabia qui, lui, joue à droite, il faut me dire encore une fois où est la cohérence par rapport aux propos qui ont été dits et par rapport aux actes qui seraient faits. Donc pour moi, Marcus Thuram, mauvaise idée.
Ok. Avant de passer à l'avant-match de ce soir et avoir vos pronos, j'ai vu un commentaire passer de Vincent, qui est un très grand défenseur en général des trois de devant et qui voudrait les conserver. Il nous a dit que Neymar, Mbappé, Cavani, ça marchait très bien. Et en fait, je voulais être d'accord, avoir votre avis avec si vous pensez que le trio Messi, enfin Neymar, Cavani, Mbappé n'était pas plus complémentaire que celui qu'on a actuellement. Et on a notamment vu Mbappé qui aimait bien jouer en 4-4-2 avec un deuxième attaquant, notamment à Monaco où c'était le feu avec Falcao. Est-ce que c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison? Est-ce que c'est pas ce qui manquerait à Mbappé? Et en même temps, on avait Neymar en 10, qui est encore dans le rôle actuel. Mais est-ce que c'était pas plus complémentaire? On va pas dire que Cavani est meilleur que Messi. Et loin de là, il n'y a personne qui dirait cette connerie. Mais est-ce que ce serait pas plus complémentaire?
Neymar n'était pas 10, ce trio, c'est sous Unai Emery qui, à l'époque, Neymar est encore ailier gauche et encore sa rapidité, sa vitesse, que ce soit dans les appels de balle ou dans les dribbles, donc c'est plus le même Neymar. Mais il y avait un truc plus cohérent, on avait Mbappé, qui lui non plus n'avait pas ce rôle qu'il a actuellement parce qu'il avait un statut plus bas, donc on avait deux flèches sur les côtés et Cavani devant, et on avait une équipe avec Unai qui était faite pour jouer beaucoup plus en transition rapide sur les côtés et finir surface.
Je pense aussi, Adrien, juste peut-être dans l'équilibre aussi, parce que quand je regardais encore PSG Angers, tu vois les retours défensifs qu'Ekitike il fait. Et du coup, maintenant, t'avais que Messi qui courait pas. Et ça te fait déjà un joueur qui court pas, contrairement à quand maintenant il y a Mbappé, Mbappé et Messi, du coup. Vas-y, Adrien.
Oui, mais sur le papier, de toute façon, c'est beaucoup plus cohérent. Sur le papier, on sait que nos trois de devant, c'est pas cohérent, c'est pas fait pour fonctionner, que ça pose des problèmes, que etc., etc., etc. On va pas aligner des arguments comme on les a tous alignés comme des perles depuis le début, on le sait. Et oui, c'était plus cohérent. Maintenant, on est face à ça. Enfin, quelle solution tu as, en fait? Si tu veux, les trois de devant, on peut faire la énième fois le débat en le prenant avec l'argument du c'est mieux avant ou du c'est pas bien maintenant. Oui, les trois ensemble, ça ne fonctionne pas. Ça t'amène trop de déséquilibre. Ça déséquilibre la structure d'équipe, ça machin. Mais une fois que tu as dit ça, quelle solution tu as? S'il n'y en a pas un qui est blessé, ben les trois sont sur le terrain, quoi qu'il advienne. C'est pas comme au milieu, hein, tu sais, on s'était construit des certitudes, paf, t'as été une certitude, il y a au premier petit couac, et ben tiens, on change, on repasse à trois derrière et deux au milieu. Par contre, les trois de devant, quoi qu'il se passe, de toute façon, que ça soit pas bien passé avant, qu'il y ait eu pas passé un truc, ici, ils seront disponibles, ils seront là, et il n'y a même pas de débat. Donc si tu veux, le débat, on peut l'ouvrir dans 110 ans, et à chaque fois, arriver à la même conclusion. Oui, ça marche pas, on sait, mais bon.
Ok, on va passer à l'avant-match Rennes-Paris Saint-Germain. Donc déjà, ça va marquer le retour de Kylian Mbappé et du coup, le retour du trio, probablement. On a vu contre Angers que... Comment il s'appelle? À chaque fois, je vais dire Pochettino, il m'a traumatisé, ce mec. À chaque fois, Galtier, on a vu que face à Angers, il a changé de système. Déjà, est-ce que vous pensez que c'était par rapport à l'absence de Kylian Mbappé ou est-ce que le match à Lens a un peu traumatisé Galtier? Du coup, il cherche des garanties et des sécurités en repassant à 3 derrière. Est-ce que vous pensez que du coup, ce soir, on sera à 3 face à Rennes? Basto, vas-y.
Oui, c'est pas l'absence d'MAP, c'est l'absence de Verratti, je pense, qui fait qu'il change de système parce qu'il a plus sa première rampe de lancement et il préfère avoir Danilo en défense avec Ramos et Marquis qui vont plus faire la relance. Mon premier point, je pense que c'est plus l'absence de Verratti qui fait changement de système. Maintenant, ce qui me gêne, c'est qu'il nous a dit qu'il l'a remis sans l'avoir retravaillé depuis qu'il l'avait abandonné en octobre. Donc, on l'a vu contre Angers, il n'y avait pas vraiment d'automatisme. A priori, ce soir, c'est annoncé de nouveau cette défense à 3 avec des pistons qui, en plus, sont Bernat et Mukiele. Bon, Ouais, je pense qu'il a, il a perdu à Lens son premier match de la saison. Il essaye de, il a moins de garanties et il revient à 3. Il nous avait dit en début de saison qu'il avait ce système à 3 parce qu'il n'y avait pas de connexion et qu'il était passé en 4-3-3 quand l'équipe était plus prête. Et là, il nous redit en conf qu'avec le mondial, l'équipe a moins de connexion. Donc, c'est peut-être le système qui, lui, le rassure. Maintenant, moi, il ne me rassure pas plus en tout cas.
Mais j'ai pas mieux que Bastos, c'est incompréhensible. Tu commences à te construire des certitudes à la première difficulté, tu casses tout et tu reviens au départ. Alors après, comme l'a rappelé Bastos, hein, le fait que Verratti soit absent a un impact énorme parce que le match Lens, on surévalue cette défaite en oubliant que le contexte était très particulier et que Lens a vraiment tiré le Paris Saint-Germain pile au bon moment de la saison pour s'acheter un match facile et qui était en tout cas beaucoup plus simple à gagner. Et je pense qu'on surévalue complètement son impact et je pense que la blessure de Marco Verratti va définir ça. Mais oui, on se retrouve avec un match, enfin le match qu'on vient de voir qui jouait à 3, c'était indigent. C'était ça a commencé, il y a eu un pressing qui était tout terrain, mais ça manquait terriblement de vitesse, ça a duré 10 minutes. Et ensuite de ça, il y a eu 80 minutes de match où il n'y avait rien de bien, rien. Et on va revoir la même chose. Bon, allez. Qu'est-ce que tu veux dire?
Mais je sais pas, parce que j'ai l'impression que le système A3 qu'il met en place, c'est pas comme un autre système A3 que j'ai déjà vu, notamment, je sais pas, de Conte ou de etc. Quand je regarde le dernier match, l'axe, il était très, très, très mal utilisé. En fait, j'ai rien compris de la semaine dernière. J'ai rien compris. Vitinha, il était collé au défenseur alors qu'il y avait déjà Danilo qui était là. Et les joueurs, ils ne savaient pas quoi faire. L'axe, il était complètement délaissé. Je suis d'accord que d'habitude, quand on a 4-3-3, on se plaint que le jeu, il est trop dans l'axe. Mais là, il est parti dans un autre extrême. Où genre on n'arrêtait pas de relancer de l'autre côté vers Mukiele et l'axe il était complètement mal utilisé. Il a essayé de contourner le bloc d'Angers qui j'avoue il était très compact. Franchement j'ai rarement vu un truc aussi bien compact pendant tout le match. Et donc il a essayé de contourner. L'arène ça va pas jouer pareil. Est-ce que pour vous Galtier c'est pas utiliser le système A3?
Bah, c'est pas lui qui le met en place déjà, mais. Vas-y, Bastien.
Non, vas-y, je te laisse la parole.
Même qu'avec ma mémoire, j'ai oublié le nom de la loin.
Sacramento.
Sacramento, voilà. Bon, on sait que c'est plus Sacramento qui a priori aime bien ce système. Mais si tu, en fait, si tu veux, c'est... Oui, c'était indigent. Déjà, rien ne va en fait. Rien ne va. C'est-à-dire que tu commences par un truc de départ. C'est l'alignement de la défense. Tu as une défense à 3 qui est sur une ligne en permanence dès qu'ils sont en train de reculer et t'es en permanence en difficulté pour le hors-jeu. Ensuite de ça, effectivement, tu as les milieux. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis que c'était pas axial. Si, pendant un quart d'heure, pendant le premier quart d'heure où on est bien, on essaye que de passer par l'axe et on a une sous-utilisation des ailes. Mais sinon, effectivement, ce qu'on a à mène, on est pour plutôt que d'utiliser les ailes en partant des 30-40 mètres pour écarter, on essaye d'écarter depuis nos 30-40 mètres à nous, avec le mec qui se retrouve complètement isolé devant, condamné à l'exploit individuel. C'est pas ça l'utilisation des ailes. Enfin, si, c'est aussi ça, mais il faut qu'il y ait ça et d'autres choses. C'est il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de réalisation, il y a des joueurs qui sous-performent. Tu as parlé de Vitinha, mais parlons de Ruiz sur ce match. Ruiz, c'est un rapport à se demander s'il est capable de faire une passe, etc. etc. En soi, revoir exactement la même chose. Après, le problème, c'est que c'est Rennes. Donc Rennes, ils savent très bien occuper les espaces, ils savent très bien se placer entre les intervalles. Et si on offre autant d'espace entre les lignes, on risque d'avoir beaucoup de difficultés. Mais revoir le même effectif, parce que c'est exactement le même effectif, en fait, revoir le même effectif, ça peut permettre de créer des automatismes. Et en soi, c'est plutôt une bonne idée. Mais pour moi, ce système, il n'est ni vu ni à voir. On ne sait pas jouer comme ça. Et ça part de la charnière. La charnière, elle se met en ligne dès qu'elle recule. C'est open bar pour se faire prendre dans son dos, ça.
En fait, je pense que Galtier n'a pas de certitude et n'en a pas plus que nous sur le jeu produit. Et que tout ce qu'il nous a dit en conférence de presse depuis le début de l'année, c'est un peu de l'esbrouf pour masquer ses inquiétudes. Donc, on commence en défense à 3, ça gagne. Puis, il y a les 3-4 matchs nuls de suite et on perd la première place de Ligue des Champions. Et là, il nous dit, je change de système, mais c'était prévu depuis le début. J'ai jamais voulu jouer à 3, j'ai toujours voulu jouer à 4, mais j'attendais qu'il y ait des automatismes. Très bien, on passe à 4. Il nous dit d'ailleurs qu'il repassera plus à 3 par la suite. Puis là, on a une défaite, il repasse à 3. alors qu'il nous dit la semaine d'avant qu'il a travaillé un troisième système qu'on verrait bientôt. J'ai juste l'impression qu'il ne sait pas et que dès qu'il y a un peu de doute des prestations indigentes, oh, il va retester un autre système, etc. etc. Je pense qu'il a, il n'arrive pas à appliquer peut-être ce qu'il voudrait. Et il essaye de le masquer, de manière intelligente et maligne par des paroles. On sait qu'il est bon en compte de presse, voilà.
Oh, Bourigeau absent ce soir. Merci. Pas de frappe des 30 mètres en pleine lucarne. Déjà, c'est déjà très, très, très bien. Merci. Je suis content qu'il soit pas là. Et, ouais, en fait, moi, je vous rejoins sur Galtier. Je suis juste partagé sur quelque chose. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il sait pas ce qu'il fait. Il arrête pas de changer. Le bon côté, c'est que sur les derniers coachs qu'on a eus, enfin, surtout Pochettino, on a quand même l'impression que Galtier tente des choses, parce que Pochettino est intérieur du tout. Et c'était Mbappé ball. Et là, on a l'impression que Galtier ou Sacramento peut-être derrière,
gentil, hein,
essaie de trouver. Non, mais je dis pas que. C'est pour ça que je t'ai dit, je suis partagé. Là, moi, j'ai l'impression qu'on ne sait pas ce qu'il fait, mais en même temps, tu peux le prendre dans un sens où il cherche la meilleure solution pour l'équipe. Et il cherche plusieurs systèmes pour trouver son système parce qu'il vient d'arriver. Et peut-être qu'il est en train de comparer, voir quel système qui est le mieux pour chaque joueur. Parce qu'on a vu aussi que. Peut-être que Galtier, il essaie de peut-être un peu trop de satisfaire tout le monde. À un moment, il faut prendre des décisions. Parce que son système de 3 à 3 de début de saison, il était très bien, mais il n'était pas bon pour Mbappé. Mbappé n'était pas heureux dans ce système. On a vu toutes les histoires de pivot gang, etc. Donc on a l'impression que Galtier, il essaie de satisfaire un peu tout le monde. Sauf que ce n'est pas possible. À un moment, il faut que tu prennes une décision. Il y a peut-être un des trois qui ne va pas être dans sa position qu'il veut. Vitinha, peut-être, il préfère jouer à 2. Mais Verratti vaut mieux mettre à 2 aussi, mais en même temps t'as Ruiz, donc tu sais pas quoi faire avec Ruiz. Et toi tu veux faire jouer Ruiz, alors que peut-être t'as Zaïre Emery qui pourrait jouer. On a l'impression qu'il essaie de satisfaire un peu tout le monde et il n'y arrive pas. Il essaie de mettre chaque joueur dans des meilleures conditions, alors que des fois faudrait privilégier le système et prendre les joueurs qui vont avec le système. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression qu'il essaie de satisfaire tout le monde.
Je trouve gentil, mais oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'il y a ça, et c'est une des qualités de Galtier d'ailleurs, c'est la qualité du management, du management humain. C'est une qualité de Galtier. Maintenant, pour Pochettino, pour rendre à César ce qu'il y a à César, Pochettino, tu compares avec Pochettino à une période où Pochettino a complètement lâché le club. Il s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, et puis on va finir la saison, et effectivement, il est plus en recherche. Faut pas oublier que Pochettino a fait beaucoup de recherches, et notamment au niveau individuel, c'est celui qui a fait progresser beaucoup Kylian Mbappé. Concernant Galtier, bah, pour moi, Basto a dit, je pense qu'il y a un manque d'idées. Après, ce qui est complexe à comprendre et à apprécier, c'est quel est le rôle de Sacramento. Est-ce que Sacramento n'est pas en train de lui savonner la planche par derrière? C'est possible. J'en sais rien, parce que on a vraiment une bouillie tactique. Ou sinon, c'est que effectivement, avec les trois de devant, tu ne peux pas construire quelque chose qui tactiquement.
Il y a ce qui nous dit Galtier, ça passe en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, j'ai peur. Attention, la Ligue 1, c'est pas fait. Tu perds ce soir, t'as Lens à 3 points et Marseille qui fait que gagner, t'es qu'à 5 points. Et on a des matchs très compliqués, un déplacement à Marseille, un déplacement à Monaco, entre les deux matchs contre Munich. Donc même en Ligue 1, si tu gagnes pas ce soir, je serais pas rassuré, il faut mieux le gagner ce soir, hein, le match.
La réalité, c'est que Mbappé et Messi, ils veulent pas se replier pour défendre, ou au minimum, donc forcément, c'est complexe. Bah, ça, on en a déjà parlé 50 fois. Au bout d'un moment, les choses, elles sont comme ça. Faut que tu t'adaptes et que tu joues autrement. Après, avoir deux joueurs qui courent pas dans toute équipe en Europe en 2023, tu pars déjà avec une balle dans le pied. Ça, c'est sûr.
Et puis, on a joué à Lens sans Messi, on a joué contre Angers sans Mbappé, et c'était pas mieux, loin de là. Donc, le problème est beaucoup plus complexe, malheureusement.
C'est vrai aussi. Du coup, la question que je vais vous poser, c'est comment vous sentez le match de ce soir? Parce que déjà, c'est un déplacement, encore une fois. On sait que la Bretagne, c'est pas forcément évident à jouer. Basto, tu sens comment le match de ce soir?
Rennes me fait peur parce qu'ils viennent de perdre contre Clermont. Et Rennes, on sait qu'ils ont... Souvent, quand ils perdent contre un petit derrière, ils te sortent le gros match et ils te battent le gros. Ils avaient perdu dernièrement, je crois, aussi contre... Je ne sais plus contre qui ils avaient perdu juste avant de gagner le match d'après. Il y a deux matchs contre une petite équipe aussi. Voilà, c'est le Rennes de Genesio qui peut perdre des points contre le 15 et 16e, mais qui compte les gros vrais présents. Heureusement, il n'y a pas Terrier et Bourigeau. D'ailleurs, a priori, il change de système. Il passe lui aussi à 5 derrière ce soir parce qu'il n'a pas assez de milieu dispo et pas assez d'attaquants qui se replient en l'absence de Bourigeau et Terrier. Donc, on verra. Mais voilà, Rennes me fait peur. Le PSG me fait peur aussi. Lens et Marseille viennent de gagner, mettent un peu la pression. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas intérêt à perdre ce match. À l'arrivée, du coup, avec tout ça, je vais dire que je vois un match nul et un match nul sous tous les points. Au tableau d'affichage et dans le jeu.
Moi, je pense que cette organisation, elle va vraiment faciliter le travail de Rennes. Alors, comme l'a rappelé Basto, l'absence de Bourigo et Terrier sont très importantes et elles vont être très importantes pour un truc, c'est le côté décisif. Et donc, je vais avoir une lecture qui sera différente de Basto. Je vais voir un match nul dans le résultat, mais pas forcément nul dans le contenu, avec un Rennes qui arrive à trouver des espaces, mais qui est dans l'incapacité de marquer.
Bah, moi, je vais dire que j'ai un peu peur de ce soir, dans le sens où... Le coach qui me fait le plus peur en Ligue 1, c'est Genesio. Et je trouve que ce coach, il est complètement sous-estimé. On l'a insulté à Lyon. Mais c'est le mec, en fait, contre les petites équipes. Genre, en fait, il a vraiment le syndrome de Lyon. C'est vraiment un pur lyonnais. C'est-à-dire que dans les petits matchs, il y a moyen qu'il fasse pas le taf. Mais dans les grands matchs, je trouve que Genesio, il arrive vraiment à toujours préparer ses équipes pour jouer des gros matchs. Et on l'a vu à Lyon, notamment, il nous a infligé pas mal de défaites et de matchs nuls au Parc OL ou que ce soit au Parc des Princes. On l'a vu face à City, où il a complètement neutralisé Pep Guardiola. On l'a vu à Rennes, la première saison où il est arrivé contre nous, il nous a fait énormément de mal. Je ne sais même pas si on a perdu ou si on a fait match nul. Mais je me rappelle que Rennes nous a posé beaucoup de difficultés. Moi, je trouve que Genesio...
On a perdu 2-0 chez eux l'année dernière.
Voilà, exactement. Et il nous avait donné une leçon de foot. Moi, je pense que dans un duel Genesio-Galtier, tactiquement, Genesio, il prend le dessus. Après, on verra.
Comme le dit Igor, Pep Genesio. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont défendu pendant très longtemps jusqu'à ne plus en pouvoir de Genesio. Parce que j'ai commencé à suivre un peu Rennes. Et il perd des matchs. Tu comprends pas pourquoi il les perd. C'est même pas que ça perd un match. C'est que tout à coup, ça arrête de bien jouer. Tu comprends pas, en fait, ça fait pas sens. Et je comprends qu'en tant que supporter, il soit insupportable. Mais en effet, comme tu le dis très bien, il est capable de sortir des gros matchs, il est capable de le faire dans les bons moments. Et là, ça serait le bon moment. Mais l'absence de Bourigo et Terrier, ça lui coûte très, très, très cher. En vrai, c'est vraiment un mec qui était très impactant au milieu, un mec qui était très impactant devant. C'est une assurance de but fréquente, ça lui coûte extrêmement cher.
Et en plus des deux, ils ont Xeka et Santa Maria, donc leurs deux buts habituels qui sont absents. C'est pour ça aussi qu'ils passent à trois. Ils ont pas. J'ai vu critiquer Genesio de changer de système et de bétonner. Je pense qu'il n'a pas le choix en vue des absents. Et je pense pas que c'est parce que tu joues à trois dernières qu'il bétonnera.
Ok les gars, bah du coup, vos pronos pour ce soir. Comme ça, je vais bien ressortir la vidéo après.
1-1.
Un partout pour Dreyas.
La même.
Putain, c'est chaud. Moi, je vois pas le PSG ne pas marquer là-bas. Mais en fait, le PSG, c'est difficile à pronostiquer parce que, à mon avis, le match, il va être infâme. Ça, j'en suis sûr. Mais t'as toujours Mbappé qui peut te sortir un truc de fou et on prend la victoire 2-1 à l'arrache. Mais je pense pas que déjà, on va pas dominer. Donc, je vais dire... Vas-y, 1-2 pour Paris avec une victoire contre le cours du jeu.
Ouais, ça peut tenir la route.
On est déprimé, un prono.
C'est une lecture en fait. C'est une lecture avec les forces du moment, la manière avec laquelle on joue. C'est-à-dire que, en fait, moi, pourquoi je mets un 1, c'est juste que, comme l'a dit Nyx, Mbappé, tu peux pas partir du principe qu'il va pas marquer, surtout quand il n'a pas joué depuis deux matchs. Et à côté de ça, on va se faire, à mon avis, complètement bouffer dans le jeu par Rennes. Mais Rennes va manquer d'efficacité, mais comme Mbappé aura marqué, Rennes va pousser, et du coup, Rennes va malgré tout mettre un but, et je pense que ça va jouer comme ça. Mais c'est même pas une question de dépression, c'est juste une lecture. Et quand tu regardes ce qu'on a produit la semaine dernière avec ce système-là, il n'y a pas de quoi être assuré, et s'il va y avoir un petit peu de mieux ce soir, parce qu'il y aura forcément un peu de mieux ce soir, ça ne va pas non plus être de quoi décrocher la lune, quoi. Peut-être que la semaine dernière, tu as tenu 10 minutes en ayant un peu de pressing, cette fois, ça va durer 20 minutes. Mais en face, la semaine dernière, c'était Angers. Là, c'est Rennes, qui est une équipe qui peut être très joueuse, et notamment avec Majer qui va être titulaire et lui est capable de trouver des espaces un petit peu partout.
Bah, c'est ça. Tomso, tu nous dis qu'on déprime, mais En fait, comme il a dit Dreyas, on est face à la réalité. Je vous rappelle quand même que Angers est dernier du championnat avec 8 points. Et j'ai pas l'impression qu'on a dominé Angers de manière spectaculaire. On a gardé le ballon. Certes, ils n'ont pas eu le ballon, mais c'était beaucoup de passes latérales, passes derrière, écartées à droite. Mais on n'a pas senti le bloc d'Angers énormément mis en danger, mis en déséquilibre. Donc, tu as eu ça. Tu as eu Strasbourg, où on a gagné à l'arrache sur un pénalty d'Mbappé. Tu as Lens, où on s'est fait malmener comme jamais. Donc, on sort de ces trois matchs-là. Qu'est-ce qui te permet d'être confiant avant d'affronter Rennes en Bretagne, genre à l'extérieur? Moi, je suis pas... En fait, je suis comme d'habitude avec le Paris Saint-Germain et comme je suis pour l'Europe des matchs qui a à venir.
C'est peut-être ça qui est souffrir. Hein. Ouais, c'est que l'analyse factuelle du 1 partout est due à une actualité globale qui est déprimante en soi. C'est peut-être ça qu'il voulait dire.
Bah, c'est ça. En fait, on peut dire que je ne suis pas confiant pour la façon dont on va jouer. Mais pareil, comme en Europe, je ne suis pas confiant qu'on va affronter le Bayern. Mais je sais qu'avec Kylian Mbappé, Messi, Neymar, tout peut arriver. Donc, c'est là où elle est compliquée, la lecture du Paris Saint-Germain. On peut être archi dégueulasse. Et sur deux exploits individuels, bah, on gagne le match. Et c'est là où c'est très difficile, d'ailleurs, du niveau au PSG. On va voir les commentaires avant de clôturer le live, vite fait. Non, mais Angers, le PSG sait qu'il va gagner, oui, mais c'est pas une raison. J'aimerais une bonne surprise, vous êtes malade, je pense que le PSG va le pulvériser Rennes. Alors, je sais pas sur quoi tu te bases pour faire ce genre de déclaration, mais tu dois pas te baser sur les derniers matchs, parce que ce que j'ai vu sur les derniers matchs me permet pas de dire ça.
Et puis Rennes, c'est une équipe qui sait jouer. Hein. Faut pas. Enfin, ça sait jouer Rennes, quoi. Tout simplement. Pas tous les matchs, mais il y a des matchs où ça joue très très bien. Et typiquement pour moi, Paris. C'est un
non, vas-y, Dresse.
Bah c'est ça. C'est Rennes. C'est pas constant, mais quand ça joue, ça joue. Et contre Paris, Genesio, et comme tu le rappelais tout à l'heure, hein, il a toujours été capable de trouver des solutions.
Vincent qui nous dit on va pas avoir peur de Rennes quand même. Rennes, je n'ai pas peur de Rennes, comme je dis tout le temps, j'ai peur du Paris Saint-Germain. Il n'y a aucune équipe qui me fait plus peur que le Paris Saint-Germain. Notre niveau qui est déprimant, on est d'accord, c'est ce qu'il voulait dire. La fameuse mise en danger. Ah, elle est pas mal celle-là, Igor. Tout à l'heure, j'ai bien aimé ta blague aussi sur le basket. Je me rappelle plus c'était quoi. Au début de saison, on se demandait qui allait battre Paris et regardez aujourd'hui. C'est un gros match, Paris va gagner et c'est safe. Bah écoutez, ce fut un très bon live d'1h30. Très apprécié pour ma part personnellement.
Les 90 minutes.
Ouais, je sais pas 95, si vous avez préféré hein. Les
95, on est dans des arrêts de jeu du mondial.
On a les arrêts de jeu.
On est des arrêts de jeu du mondial. On est des arrêts de jeu de Ligue 1.
Bah, j'espère que vous allez plus apprécier les 90 minutes de ce soir que celle de maintenant, puisque franchement, Angers, j'ai eu du mal à rester debout des fois. Donc voilà, essayez de profiter de votre match ce soir. Vous aurez Tonton et Recoba, peut-être Barry, en débrief ce soir à 23h05. Donc bon dimanche, la team, profitez de la famille et n'oubliez pas que ici, c'est